I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
La course à pied peut-elle devenir une thérapie pour libérer des choses qui sont en nous? C'est en partie le sujet dont nous avons discuté avec mon invité. Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour mes championnes et mes champions, c'est Bertrand, bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons tous les mercredis de course à pied, mais surtout de mouvement et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité. Il y a quelques années, j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kilos. Après un rééquilibrage alimentaire et la reprise du sport, j'ai perdu 27 kilos et je me suis lancé dans le défi de courir un marathon. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils et des rencontres avec des personnes inspirantes. Et aujourd'hui, je vous propose un épisode Dernier Ravito. Les épisodes Dernier Ravito, vous savez, c'est un petit peu le blabla run ou alors la discussion à l'arrivée d'une course, comme ça, on refait le monde entre coureurs. Mon invité s'appelle Monsieur Tipiak sur Instagram et Greg Arbraz comme son nom d'auteur sur son livre. Oui, ça sent un petit peu la Bretagne, même si son rêve à lui, c'est de courir le Grand Raid de la Réunion. Vous comprendrez donc le titre de son livre, Ma vie en diagonale. Il a écrit un livre sur ses 9 ultra trails. Il parle de ses courses évidemment, mais aussi de l'impact de la course sur sa vie. Pour Greg, la course à pied est un art de vivre, l'ultra-endurance, une thérapie. Et on a parlé un petit peu de ce sujet-là, de pourquoi il écrit un livre, comment il écrit un livre et quelles sont les choses qu'il a découvertes en courant et en courant de longue distance. On a parlé de ses projets, ses entraînements et comment il organise sa vie de trailer, sa vie pro et sa vie de papa, son plaisir de la descente et l'engagement que ça demande, mais aussi de l'hypnose en course à pied mais aussi à l'hôpital. Bref, vous avez de quoi nous écouter pour une belle sortie longue. Et bien entendu, vous trouverez tous les liens en note de l'épisode et sur mon site bertrandsoulier.com. Allez, c'est parti. Bonsoir Greg.
Salut Bertrand.
Comment vas-tu?
Eh bien, ça va plutôt bien. Plutôt bien. Je me suis inscrit au Grand Raid ce midi d'ailleurs. Tiens, c'est rigolo que ça tombe aujourd'hui, tu vois. Mais je me suis inscrit ce midi. Voilà, donc je suis de très bonne humeur ce soir.
Le Grand Raid, la Réunion, les voyages, traverser le monde pour aller courir. Chouette programme.
Ouais, c'est un beau programme. Ouais. Bon, après, j'avoue que je joue un peu avec le règlement parce que normalement, les préinscriptions commencent le 24 janvier pour les métropolitains et les réunionnais. Mmh. Et comme j'ai une double nationalité, je m'inscris avec mon passeport. Avec mon autre passeport, et voilà, donc du coup, je fais partie de la tranche coureur étranger, donc je passe pas par le tirage au sort. Donc j'avoue, je triche un peu, mais bon, c'est comme ça.
Ah ah, mais alors ça, c'est un sacré plan, dis donc, que tu nous, que t'as là.
Là, ouais, après, j'espère que ça va pas nous trahir, parce que mais c'est vrai que, voilà, après, la règle, elle est comme ça, et bon, moi, je trouve que les règles, c'est fait pour être parfois un peu contournées, donc là, en l'occurrence, j'avais déjà fait en 2020, ça avait été annulé, donc. Je réitère l'aventure. Enfin, voilà, j'espère que cette fois-ci, il n'y aura pas de mauvaises surprises.
Tu as déjà fait le Grand Raid?
Eh bien non, je devais le faire en 2020. Mmh. Et puis, ça a été annulé à cause du Covid, forcément. Parce que 2020, c'était un peu l'année noire pour tous les coureurs. Mmh. Et du coup, on a quand même été en famille et avec des amis sur l'île, malgré tout. Et puis, en fait, je l'ai faite avec deux autres réunionnais. On a fait le tracé de 2012. Donc en partant tout à fait au sud de l'île pour remonter jusqu'à Saint-Denis. Mmh. Donc on l'a fait en 3 jours et puis ça a été une aventure fabuleuse. Voilà, une vraie aventure humaine sans pression, sans barrière horaire, sans ravito et sans assistance médicale. Mais c'était un souvenir qui restera, je pense, à jamais gravé dans ma mémoire.
Oui, ce que j'ai dit.
D'où le livre d'ailleurs.
Parce que finalement, dans ces cas-là, finalement, vous avez assuré votre logistique. En famille, avec les amis, comment vous avez fait ça?
C'est surtout Thierry, qui est réunionnais, qui a géré un petit peu toute la logistique. Donc c'est surtout ses amis qui se sont un peu relayés tout au long du parcours, là où c'était accessible, puisque dans le cirque de Mafate, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Donc c'est vrai qu'on a eu un ravitaillement à Piton Textor, au kilomètre 40, je crois. Un autre à Silaos, au kilomètre 60. Et puis après, au Maïdo, donc à la sortie de Mafate. Et puis ensuite, un dernier, Bah, sans souci, donc c'est vers le kilomètre 100, il me semble, de mémoire, mais je suis pas très sûr là. Et puis après, bah, à l'arrivée, quoi. Donc ça a été quand même assez éprouvant parce que il a fallu tenir quand même des tranches de 12 heures bah, sans ravitaillement. Et finalement, en fait, je trouve que ça passe quand même plutôt pas mal parce que on a souvent tendance un peu à s'appuyer sur l'organisation et au final, on se rend compte que l'organisme, en gérant bien, ça le fait.
Oui, mais alors, moi j'ai une question quand même. C'est, tu m'as dit que tu le fais en 3 jours. Et t'as dormi ?
Ouais, punaise, ouais, on a dormi, mais on a dormi. Alors, on a mis une cinquantaine d'heures en le faisant vraiment tranquillement. Et on s'est arrêté à Sillaos. On a eu une première nuit, comme en fait on partait de Saint-Philippe, on est remonté sur le volcan. Et arrivé au volcan, on a eu des conditions météo extrêmement difficiles avec vent, brume, froid. Donc on s'est perdu. Pourtant, Thierry et Roland, donc, qui étaient avec moi, connaissent très très bien le parcours hein, et les sentiers réunionnais. Et ça ne nous a pas empêchés de nous perdre. Donc, on a perdu beaucoup de temps, beaucoup, beaucoup d'énergie. Et arrivé à Sillaos, en fait, on s'est concerté. On était deux sur les trois à être pas dans de bonnes dispositions, surtout au niveau mental. Donc, on s'est dit, allez, on va dormir. On va dormir la nuit, parce qu'on est arrivé vers 18h à Sillaos. On va dormir, et puis manger, prendre une douche et dormir. Et puis on verra ce qu'on fait. Et puis on est reparti à 3h45 du matin pour continuer la traversée. Donc on a dormi une première fois, et puis on a dormi une deuxième fois sur à La Possession, sur un trottoir comme les SDF. Voilà. Mais c'était un super souvenir, franchement. Voilà. Donc on a dormi, en gros, voilà. 3-4 heures la première fois et puis 30 minutes la deuxième fois, quoi.
Ouais, bon, bah une belle aventure, quoi.
Ouais, c'était fabuleux. Je pense que c'est un de mes plus beaux souvenirs en termes de pratique sportive. Un des plus beaux, un des plus forts humainement. Enfin, c'était vraiment fabuleux. Vraiment, puis l'île, magnifique.
Est-ce que cette traversée, ce grand raid en off, finalement, tu le comptes dans tes ultra trails avec tes petites médailles x9 là, sur ton compte Instagram?
C'est difficile à dire. Je le compte parce qu'on a quand même, on l'a quand même fait en mode rando-course. Donc, ça a été quand même un effort qu'on a fourni. Très certainement moins intense que si c'est sur un ultra trail où tu as tes barrières horaires à respecter et tout ça. Mais voilà, on en discute souvent, on a toujours contact et d'ailleurs on prendra le départ cette année hein, tous ensemble, ça c'est certain et on en parle tout le temps. Enfin, il n'y a pas une journée où on ne pense pas à ce qu'on a vécu pendant ces 3 jours, quoi. Donc oui, effectivement, je suis finisseur de 9 ultra, mais celui-là, c'était le 10e et c'est le plus beau, quoi. Enfin, c'était, voilà, même s'il n'y a pas de médaille, même s'il n'y a pas de t-shirt finisher, c'est un peu. C'est pas très grave, quoi. Ça reste gravé dans la mémoire, c'est ce qui compte.
Alors, on est rentré dans le vif du sujet, mais en fait, je ne t'ai même pas laissé te présenter. C'est important quand même, parce que de dire, finalement, tu cours depuis toujours, enfin.
Moi je suis né en Bretagne et là actuellement je suis sur Bordeaux et puis c'est principalement pour le travail que je suis venu dans cette région-là. Donc je suis infirmier anesthésiste dans un centre de lutte contre le cancer sur Bordeaux et puis la course à pied a toujours fait partie un petit peu de mon quotidien. Avant de courir, j'ai fait 20 ans de rugby. Il y a une des phases que j'adorais, c'était l'été quand il fallait un petit peu se remettre en forme et donc forcément c'était la course à pied et j'aimais beaucoup ça. Et puis après quand je suis arrivé dans le sud-ouest, forcément grosse région de rugby, donc j'ai continué et puis j'ai fait quelques clubs et puis il y a un moment où j'ai senti que mon corps commençait à me dire que il allait peut-être falloir faire autre chose et donc je me suis mis au triathlon aux longues distances. Ça a duré 1 an et demi, 2 ans parce que on a eu notre premier enfant avec ma compagne et puis rapidement j'ai compris que ça allait être compliqué de continuer le longue distance sur 3 disciplines. Donc je suis revenu à la course à pied un peu naturellement et puis avec 2 marathons et puis après pop j'ai basculé sur le trail parce que la course sur route c'était j'aimais bien mais c'était pas non plus je m'y retrouvais pas forcément. Et puis dans le trail, j'ai trouvé mon truc, avec vraiment un état d'esprit qui se rapproche un peu du rugby, très épicurien, très on profite des bonnes choses sans se prendre la tête. Et puis Et puis voilà, quoi, c'était voilà, quelque chose qui se rapprochait beaucoup plus de mes valeurs, quoi. Sachant que je ne dis pas que les coureurs sur route n'ont pas de valeur, hein, mais c'était voilà, c'est différent, c'est deux choses différentes, donc faut que chacun y trouve son compte, et moi c'était le trail vraiment.
Ouais, t'as raison de le préciser. Parce qu'en plus, j'ai l'impression qu'un peu dans le trail, il y a des trucs qui se perdent un peu de temps en temps, là, sur certaines courses en tout cas, mais peut-être pas sur les grands raids où il y a moins de têtes de jeu. Il y a moins de touristes, j'ai envie de dire, je sais pas comment on pourrait le présenter. Ce qui est pas péjoratif, hein, c'est qu'il y a des petites courses où on peut venir plus facilement. Mais quand on s'aligne sur un grand raid comme ça, là, t'y vas avec combien d'heures combien de périodes d'entraînement, etc.
Ben, là, par exemple, tu vois, j'ai coupé tout l'hiver, là. J'ai fait un ultra en Auvergne au mois d'octobre, ben, vers chez toi d'ailleurs, le Grand Trail d'Auvergne. Et puis après, j'ai eu envie de couper, mais complètement. De toute façon, je sentais que 2021, ça allait être une année de transition parce que voilà, j'ai un peu tiré sur la, j'ai un peu voilà, tiré sur la machine, on va dire, depuis 2018, hein, avec quand même 9 ultras, ouais, du coup, 10 même, puisque j'ai avec le Grand Raid en off. Et je sentais déjà que j'avais pas mal de fatigue. Donc après le Grand Trail d'Auvergne, j'ai coupé, ça fait donc là 2 mois et demi, j'ai coupé complètement. Et donc là, pour préparer le Grand Raid en octobre prochain, ça y est, j'ai commencé à reprendre un petit peu des exercices de corde à sauter, tout ça, pour me remettre un peu en forme. Et voilà, quoi. Donc ouais, en termes d'entraînement, après, ça va monter crescendo, quoi. Et après, quand tu as des grosses semaines où tu fais des sorties rando-course, on appelle ça, où tu, voilà, tu te mets en condition, où tu vas t'entraîner au minimum 5 heures, bon là, ouais, tu montes à une grosse dizaine, voire une quinzaine d'heures de course à pied dans la semaine. Enfin, course à pied ou vélo, hein, parce que pareil, avec l'expérience, tu apprends que courir 15 heures, bon, on n'est pas sportif de haut niveau, donc il faut aussi se ménager. Donc voilà, il y a plein de belles manières de s'entraîner tout en se faisant plaisir, donc...
Alors, moi, j'ai plusieurs curiosités quand même. Là, bon, on va revenir un petit peu en arrière, mais tu jouais quel poste au rugby ?
Alors, en Bretagne, je jouais demi de mêlée.
Ah, ça va.
Et après, quand je suis arrivé ici, bah, on m'a mis. J'ai beaucoup joué à l'aile. Sachant que j'avais pas voilà, un niveau. Voilà, donc un bon niveau, enfin, je ne suis pas un mauvais joueur, mais je ne suis pas non plus un joueur exceptionnel. Donc voilà, j'étais à l'aile parce que j'étais vif et assez explosif. Donc voilà, mais ça m'allait bien aussi, j'aimais bien.
Non, parce que j'ai beaucoup de mal à avoir en première ligne, se mettre à faire du trail. Et je ne dis pas que ce soit impossible, parce que j'ai vu l'Ironman à Vichy, des physiques de gars qui avaient franchement des physiques de première ligne et de deuxième ligne, faire un Ironman. Donc je me dis, c'est possible, mais c'est pas le gabarit le plus facile à trimballer. Donc je me dis, bon, déjà, demi-mêlée, aile, etc., t'es quand même un physique qui est pas trop lourd, quoi.
Non. Bah, y a un mec comme Raphaël Ibanez, je crois qu'il court beaucoup. Hein. Et pourtant, il était talonneur initialement. Donc ouais, c'est pas impossible, mais ouais, c'est sûr que le trail, bon, mais dans le trail, il y a quand même, comme tu en parlais là, sur Vichy par exemple, dans le trail, il y a aussi des physiques un peu atypiques, mais comme quoi ça joue en rien, quoi. Enfin, c'est vraiment, voilà, c'est ouvert à tout le monde, je trouve. Enfin, ça qui est bien.
Ouais, bon, après, c'est vrai qu'on voit un nombre de gringalets impressionnant dans les premiers, dans les tout premiers, là, ils sont pas très épais.
Ah oui, c'est vrai.
Mais c'est vrai qu'après il y a une question de vitesse et puis chacun a son rythme, etc. Il y a tout un tas de choses comme ça. Ensuite, ma deuxième question qui est quand même importante, parce que il y a des gens qui ont tilté, moi j'ai tilté. Bon, la Bretagne, c'est pas une terre très montagneuse, hein. Je sais bien qu'il y a des sommets vertigineux et des côtes incroyables que le Tour de France nous présente chaque année comme étant des montées incroyables et tout, mur de Bretagne, on s'imagine un truc énorme. Mais alors Bordeaux, pour préparer du trail, je me dis, ça doit quand même pas être simple de trouver du dénivelé.
Non, c'est pas simple du tout, je confirme. En gros, sur Bordeaux, pour s'entraîner, il y a quelques spots où on peut enchaîner du dénivelé, mais bon, tu finis vite comme un hamster, hein, à faire des allers-retours. Après, on a donc sur Bordeaux, il y a les communes de Lormont, Foirac, Senon et Bouillac qui permettent, c'est sur les coteaux, c'est des villes qui sont sur les coteaux bordelais, et tu peux te faire facilement un circuit de 40 km avec 1000 ou 1500 mètres de dénivelé positif. Donc c'est quand même possible. Après, moi, ça m'arrive de me faire des séances de 2 heures sur la même côte et de les enchaîner, et j'arrive à 1000 mètres de dénivelé, quoi. Donc bon, c'est un peu dur parfois, mais c'est le seul moyen voilà, vraiment rapide pour faire du dénivelé. Après, on peut aller au Pays Basque, où il y a le sommet de la Rune qui est à 2 heures de route. Et là, c'est un fabuleux terrain de jeu, vraiment superbe. Il y a la Sky Rune d'ailleurs qui s'y court autour. Et voilà, c'est un peu. Voilà. Après, on peut aller aussi en Dordogne. Il y a. Voilà, c'est accessible. Voilà. Bon, après, faire 5 ou 6 heures de route ou 3 heures et demie de route pour aller jusque dans les Pyrénées, c'est à moins de prévoir quelque chose, un week-end shop par exemple, c'est faisable aussi. Mais bon, c'est un peu plus compliqué, surtout quand on a une vie de famille, qu'on a un boulot et tout ça, quoi. Parce que mine de rien, c'est avant tout ça qui prime sur le reste, quoi.
Oui, alors tiens, on va parler de la Sky Rune là quand même, parce que je sais pas, moi je la connaissais pas cette course, mais ça a l'air quand même d'être un sacré gros morceau quand même cette histoire là.
Ouais, je l'ai faite d'ailleurs en septembre dernier, hein, et ça faisait 5 ans que j'étais recalé au tirage au sort. Et l'année du Covid, les organisateurs m'avaient recontacté en me disant « Bon, on a vu que tu as été recalé plusieurs fois. » J'avais un peu râlé sur les réseaux sociaux. Bon, je ne suis pas trop du style à faire ça. Mais là, putain, j'ai dit 4 ans ou 5 ans sans être tiré au sort. J'avais un peu les boules. Et puis finalement, bah, ça a été annulé avec le Covid. Forcément, ils m'ont dit bah, « C'est valable pour l'année prochaine. » Donc ouais, je l'ai couru et c'est fabuleux. Franchement, une course, voilà, quand tu commences à arriver au quatrième kilomètre, là, t'as une bonne côte et il y a une ambiance digne du Tour de France, quoi. C'est dingue. En haut de la rune, il y a un DJ. Enfin, c'était affolant, c'était top, super. Il y a vraiment une course à faire, quoi.
C'est une course qui fait combien de distance?
Elle fait 21 kilomètres et t'as 1700 mètres de dénivelé positif, sachant que t'as alors attends, que je te dise pas de bêtises, mais là de tête, je crois que c'est au 15e ou au 16e kilomètre où tu arrives vraiment au sommet de la rune, donc c'est à 940 mètres d'altitude. Et en gros, sur cette dernière difficulté, je crois que tu prends 700 mètres de dénivelé ou 800 mètres de dénivelé, hein, sur 2 ou 3 kilomètres, donc c'est horrible. Et voilà, faut s'accrocher. Et puis bon, après, une fois que tu commences la descente jusqu'au village, bah après c'est presque gagné, quoi. Donc, mais elle est costaud, vraiment très très costaud, très technique. Enfin, t'as pas le temps de t'ennuyer, quoi. Faut pas regarder derrière, quoi. Faut vraiment avancer. Faut pas se poser de questions, quoi.
Et alors, je vois un détail, mais qui est pas un détail, c'est que s'il y a 600 personnes qui sont au départ, il y a que 333 arrivées.
Ouais, parce que les barrières horaires sont assez sélectives, donc c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment pas traîner, quoi. Faut y aller un peu en mode bourrin quand même, hein, je crois qu'il faut le dire, hein, c'est vraiment c'est vraiment bourrin. Hein. Donc voilà, après c'est un bon exercice aussi, je trouve. Enfin, c'est bien aussi de travailler la vitesse, tout ça, ça fait du bien aussi des fois parce que sur un ultra, il faut sortir de sa zone de confort, mais sur une course comme ça, faut aussi un peu faut mettre le cerveau un peu de côté des fois, quoi. Donc vraiment c'est intéressant comme course, mais il est très sélectif, ouais. Les barrières horaires sont vraiment très serrées, quoi.
Ouais, et puis disons-le, hein, qui fait partie en plus des Golden Trail Series, World Series, donc bon, c'est je sais pas qui c'est qui l'a gagné l'an dernier, en quel temps il met, mais ça a dû aller vite quand même, ça a dû galoper.
Je sais plus combien de temps il met, 1h50, je crois, un truc comme ça. Non, mais c'est des ovnis, hein, les mecs, hein. C'est même les nanas, hein. Enfin, c'est des extraterrestres. Mais voilà, après tu te retrouves. Alors moi je l'ai pas faite parce que bah je suis rentré tout de suite après la course, mais le soir apparemment c'est la folie, quoi. C'est ambiance. Voilà, avec le Covid, je pense moins que les années précédentes. Mais tant que ça se termine d'ailleurs ces conneries là, parce que ça commence à être un peu pesant, quoi. Et ouais, le soir après, parce que la course, le départ est à 14h, donc tu fais ta course et après t'as de quoi te mettre les basques, ça faire la fête, donc c'est chouette.
Ouais, t'es en train de regarder le profil, c'est vrai que ça a l'air quand même joliment pentu par endroits.
Ouais.
Un bel enchaînement en tout cas. Alors j'étais en train de chercher qui c'est qu'il avait gagné, mais en fait je trouverai pas comme ça, mais je mettrai dans un autre épisode si quand j'en retrouverai. Mais
attends, je peux te dire ça. Là, hein, c'est attends, c'est un Espagnol, je crois, qui a gagné. Skyrim 2021. Ouais, je crois que c'est ça. Et la gagnante chez les femmes, c'est une Néerlandaise, je crois, l'année dernière. C'est rigolo, d'ailleurs. Parce que, quand même, le plat pays, quoi.
Ouais, c'est ça. On appelle ça le plat pays. Et comme quoi, bon, il y a des techniques d'entraînement, quand même. Hein.
Ouais, c'est clair. Ouais, c'est pas sur le site, j'ai pas l'impression qu'il y a marqué résultat, mais.
Bon, ouais, écoute, tu sais, on trouvera, je trouverai, je mettrai un autre épisode pour les curieux. Je mettrai le temps sur le site, je mettrai un petit lien pour qu'on recherche. Mais en tout cas, c'est vrai que ça a l'air d'être ils ont l'air de vanter le côté festif aussi, donc ça a l'air d'être une belle expérience. Peut-être qu'il y a des gens qui auront envie de le faire, tenter leur chance, etc. Donc c'est chouette d'en parler. Alors. Ça, c'était ma petite curiosité là-dedans. Tu m'as dit quand même, attends, j'ai 10 ultras en 2 ans, t'as fait?
Ouais, mon premier c'était en mai 2018
Ouais.
et en octobre 2020, moi c'était le dixième, ouais. Ouais, c'est ça. En 2018, j'en ai fait 3, en 2019, j'en ai fait 4. Et en 2020, mais attends, j'ai peut-être mal compté. Non, 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 c'est ça, c'est 9. Puisque j'ai fait, attends, 2019, 2018, j'ai fait la Dordogne, j'ai fait la Saint-Élion et j'ai fait l'ultramarin, enfin le raid de l'ultramarin. En 2019, j'ai fait l'éco-trail, l'ultramarin. Punaise. Mémoire flanche.
T'as un doute? Ah.
Aller sur mon truc, mais je sais même plus lequel j'ai fait en 2020, en 2019. Éco-trail, ultramarin, grand raid des Pyrénées, et en octobre, l'Endurance Trail, en 2019. Et en 2000.
T'en as un qui t'a plus marqué que les autres?
Ah, l'ultramarin, ça m'a. Ça secoue. Le 177, ouais. Il secoue bien celui-là. Ouais, celui-là a été, je pense, vraiment un tournant dans ma pratique du trail. Ouais. 177 km, tu fais le tour du golfe du Morbihan, c'est relativement plat quand même, et sur 177 km, tu as 1000 mètres de dénivelé, mais voilà, des escaliers, du sable, des chemins, de la route, voilà, tout ce qu'il faut pour bien te mettre les jambes en difficulté, et ça a été le cas, et ça a été une course vraiment très 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 dure, surtout les 30 derniers kilomètres. Où ça a été très éprouvant, mais voilà, c'est une course, voilà, ça a marqué un tournant vraiment. Voilà, là, tu prends vraiment de l'expérience, quoi, beaucoup d'expérience, même si ça a été très dur.
Je sais pas si tu rassures ceux, parce que j'ai des auditeurs qui sont inscrits et qui l'ont mis à leur programme des prochaines éditions. Je sais pas si tu les rassures beaucoup en leur disant ça. Alors, on va y aller. Si tu as un conseil à leur donner sur la préparation de cette course-là, qu'est-ce que tu leur dirais?
Alors après, alors ce que je leur dirais, déjà de pas partir trop vite, vraiment prendre le temps au départ, pas se laisser vraiment. Je pense que c'est vraiment essentiel le départ. Là, tu peux vraiment griller des cartouches de manière inutilement. Donc partir vraiment tranquillement et puis après voilà, prendre le temps. S'il y a besoin de marcher, vraiment faut pas hésiter parce que c'est quand même très 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 long. Mais voilà, partir tranquille et voilà, être serein et pas voilà, et gérer son effort du mieux possible, quoi. Et souvent il fait très très chaud, donc aussi bien bien s'hydrater, quoi. Même si c'est sur Vannes, il faisait très chaud. Mais c'est une très très belle course, vraiment. J'ai des souvenirs fabuleux, enfin, les paysages au tomber voilà, quand le soleil se couche, enfin, sur voilà, sur le golfe du Morbihan, c'est les couleurs sont magnifiques. Il y a une traversée en bateau, moi je l'ai pris l'embarcadère, je suis arrivé à l'embarcadère, le soleil commençait tout juste à se lever, donc c'était fabuleux aussi, quoi. Enfin, ça reste des super souvenirs. Et après voilà, après c'est vrai que la deuxième partie de course est un petit peu plus monotone, mais bon, ça se fait, quoi. Et puis l'arrivée, voilà, c'est fabuleux, c'est des super moments. En plus, moi, j'avais la chance d'avoir ma compagne et mes deux petits avec moi, donc c'était un souvenir pareil qui restera longtemps dans ma mémoire. Donc, c'est vraiment une très belle course, très très bien organisée. Enfin, voilà, ils regretteront pas, enfin vraiment. Et voilà, et après la préparation, ben, ça se fait aussi, quoi. Enfin, pas non plus se mettre trop de pression, quoi. Mais, enfin voilà, très belle course.
Dans ces 10, il y en a un qui t'a déçu, ou soit parce que tu t'attendais à autre chose, soit parce que toi-même tu es pas arrivé comme tu voulais, ou t'as pas fait ce que tu voulais.
Si je reprends un peu, je pensais ouais, la Saint-Élion, j'étais un peu Je pense que tout le monde t'en parle comme voilà, une course, elle est fabuleuse, tout ça. C'est vrai, c'est très bien, c'est très sympa, c'est bien organisé. Voilà, le départ tous ensemble, c'est très très bien. Mais moi, j'y ai pas trouvé forcément mon compte. Voilà, je trouvais ça très sympa, mais sans plus non plus, quoi. Par rapport à tout ce qui est fait autour et tout ce qui est. Voilà, voilà. Mais après, j'en parle d'ailleurs dans le livre, hein, c'est un avis qui est très personnel et voilà, et je pense qu'il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec moi. Ça dépend de ce qu'on vit aussi au moment de la course, tout ça. Mais voilà, alors je suis en train de calculer, c'est pas 10, c'est 9. Hein. Sur les 9, ouais, je pense que c'est celle-là, là, peut-être la moins, qui m'a le moins emballé, quoi, vraiment. Si vraiment je devais y retourner, j'y retournerais avec des copains, quoi. Pour la faire avec des copains et se marrer, quoi. Là, j'étais tout seul, bon, c'était pas. Voilà, c'était moins funky, quoi.
Mais moi, je t'avoue que c'est une course qui me tente pas du tout. Alors pourtant, moi, je suis à 1h15 du départ. Mais c'est ce que je disais, j'ai eu un invité il y a pas longtemps, Damien, Runner Life 35. Je lui disais, mais qu'est-ce que tu allais faire aller courir en pleine nuit, dans le froid, dans le truc? Et bon, lui, ça a l'air de lui avoir plu, mais. Si t'aimes un peu tu me parlais là juste avant des paysages de l'ultramarin, là c'est vrai que c'est une course qui est totalement opposée. T'y vas pour vivre autre chose, quoi.
Et surtout après, il y a les étudiants, il est très froid, tout ça. C'est une autre manière de courir aussi, donc ça peut être intéressant quand il neige. C'est une autre expérience. Donc moi je l'ai vécu. Il pleuvait, il y avait de la boue. Enfin bon, voilà, il faisait nuit. Ouais, bon, c'était bien, quoi. Voilà, j'ai fait du trail, quoi. Voilà, mais ça m'a pas plus voilà. Après, j'ai fait des belles rencontres, hein. J'ai rencontré des personnes d'Instagram et que j'aurais jamais rencontré si j'avais pas été là-bas, et c'était super, quoi, enfin vraiment. Mais voilà, j'ai comme tu dis, quoi, c'est voilà. Après, faut que chacun y trouve son compte, et c'est ça le principal. Voilà, moi j'ai voilà, ça a été une expérience en demi-teinte, quoi.
Tu l'as dit, parce que c'est pour ça que je t'avais invité aussi. T'as parlé de ton livre, et moi j'étais alors vraiment sur le coup quand j'ai vu ça passer sur Instagram, je dis tiens, ça c'est j'ai envie de te mettre en avant, parce que écrire un livre sur tes aventures de course, je me dis ça a dû être un sacré boulot quand même.
Ouais, et puis bon, initialement ça faisait un moment que je voulais le faire. Et puis je me suis dit, enfin ouais, je réfléchis souvent beaucoup quand je cours, et comme beaucoup je pense. Et puis je me suis dit, à un moment j'ai pensé à mes enfants, je me suis dit putain, ce serait cool que je leur laisse quelque chose, quoi. Voilà, pas seulement voilà une baraque et puis un compte en banque une fois qu'on n'est plus là. J'ai envie de leur laisser quelque chose de beaucoup plus voilà symbolique et voilà une vraie partie de moi, quoi. Et c'est parti de là. Et en fait, ma femme était en reconversion pro et a préparé un concours, donc pendant qu'elle bossait le soir, je me suis mis à écrire. Et puis au début j'ai écrit que sur la course à pied. Vraiment, je me suis centré vraiment voilà, j'aimais bien faire des petits comptes rendus sur Instagram quand je faisais mes ultras. Donc j'ai repris bien entendu ce que j'avais déjà rédigé et puis après j'ai retouché les choses de manière à ce que ce soit un peu plus écrit de manière un peu plus voilà entre guillemets jolie, quoi. Romancé, on va dire. Et puis en fait, je me suis rendu compte que c'était pas possible. Et que si je voulais que les gens comprennent ce que j'avais vécu pendant mes courses, il fallait que je parle de moi aussi. Et ça a été, je pense, le plus dur, vraiment le plus dur, parce que je suis pas quelqu'un qui j'aime pas trop parler de moi. Enfin voilà, voilà, on a tous des problèmes dans nos vies, on a tous des voilà des moments de joie aussi. Et puis voilà, moi c'est vrai que durant mon enfance j'ai eu des moments un peu compliqués, mais comme tout le monde, et puis voilà, j'aime pas trop en parler. Et puis en fait, la course à pied, je pouvais pas en parler si je parlais pas de ce que j'ai vécu quand j'étais petit et tout ça. Donc j'ai voilà, je m'y suis mis. Je me suis pas forcé, j'ai écrit ce que j'avais envie d'écrire, un peu au gré de mes pensées, tout ça. Et puis après, j'ai essayé de structurer un petit peu tout ça, de manière à ce que ce soit fluide, et ce que ce soit compréhensible pour, en l'occurrence, mes enfants quand ils seront un petit peu plus grands. Et puis par moments, je lisais des passages à ma femme pour qu'elle me dise un petit peu ce qu'elle en pensait, avoir son retour. Et puis un jour, elle m'a dit, écoute, si tu fais pas ce qu'il faut pour le sortir et le publier, ben je le ferai pour toi. Et du coup, je me suis dit bon, ok. Donc, ben du coup, je dis bon, ben, écoute, je vais aller au bout des choses. je vais aller au bout des choses. Et puis, voilà, de fil en aiguille, ça m'a pris à peu près un an pour le rédiger. Et puis, voilà, l'été dernier, j'ai imprimé une dizaine d'exemplaires que j'ai remis à des proches, des gens qui me connaissent bien et d'autres aussi qui me connaissent un peu moins et qui n'ont rien à voir avec la course à pied, parce que ça me permettait d'avoir quand même un point de vue aussi un petit peu des gens qui avaient un peu de recul. Et puis globalement, j'ai quand même eu que des retours positifs. Donc je me suis dit, bon, bah écoute, c'est bien, c'est cool. Bon, bah maintenant, on va essayer de mettre un peu les choses encore un peu plus en forme. Donc j'ai commencé à recorriger, voilà. Et puis voilà, et puis il y a un moment bah, voilà, où je me suis mis un petit coup de pied aux fesses et puis j'ai fait le pas, quoi. Donc je me suis principalement orienté vers l'auto-édition parce que pour trouver un éditeur, tout ça, c'est franchement, j'ai même pas essayé parce que c'est comme le monde du disque, quoi. C'est, si t'as pas des connaissances ou un réseau ou quoi que ce soit, ça, c'est pas possible, quoi. Donc du coup, voilà, j'ai fait tout en auto-édition. J'ai lancé des préventes via mon compte Instagram et voilà, j'ai des gens qui ont été intéressés, donc ils me l'ont pris. Et puis voilà, quoi. Alors, sachant que là où vraiment le seul truc où je pêche, je le savais, c'est que je suis une bille en orthographe, mais vraiment une bille. Donc je l'avais corrigé une première fois, je l'avais fait corriger par un ami, et puis en fait il restait encore des fautes là. Donc là, j'ai encore des demandes, j'ai des gens qui me demandent encore, donc je vais certainement refaire une prévente. Mais cette fois-ci, il a été encore une fois corrigé par ma belle-sœur, qui fait un petit coucou d'ailleurs, Céline, et qui m'a tout recorrigé pour que ce soit voilà, vraiment carré, quoi. Et même si certainement il doit encore rester quelques fautes. Mais voilà un petit peu le parcours de ce bouquin qui s'appelle Ma vie en diagonale, parce que bah, forcément le point d'honneur, c'était bah, le Grand Raid de la Réunion en 2020 qui devait se faire de manière officielle, et puis finalement qui a pris une autre tournure. Et voilà, et quand je disais que c'était un souvenir qui est impérissable et que je garderai toute ma vie dans. Au fond de moi, voilà, je l'ai retranscrit sur le papier et puis les retours que j'en ai, ça a l'air assez positif, les gens accrochent et tout ça, donc c'est cool.
C'est cool. Voilà. C'est cool. Alors, si ça peut te rassurer sur les fautes, et j'ai fini un bouquin, ou j'ai lu un bouquin tout à l'heure, il y avait des fautes d'orthographe. Hein, alors que c'est chez un éditeur, un gros éditeur, etc. Ils étaient censés avoir relu, je sais pas combien de fois, il y avait encore des fautes d'orthographe, de la ponctuation qui manquait, etc. Moi, ça me décrispe beaucoup quand j'oublie un point sur mes postes, etc. Donc vraiment, donc là-dessus, faut se rassurer. Moi, mon bouquin que j'ai fait aussi, j'ai écrit mon bouquin, c'est pareil. Je me suis rendu compte après, il y a encore des fautes, les relecteurs, on l'a fait relire par je sais pas combien de personnes à chaque fois dire, mais il y a encore une faute, il y a encore un truc, etc. On n'en sort jamais de ces histoires-là. Donc bon, hein, on va se rassurer là-dessus. Ce que je trouve intéressant quand je regarde ta quatrième de couverture, c'est que tu dis qu'en fait, c'est à quel point finalement ça fait bouger des choses. Tu dis que ça fait bouger des choses en vous, qu'on sort pas indemne d'une course de 80 km.
Non, ça c'est clair. Moi, forcément, je parle de moi, donc c'est vrai que voilà, je pense que c'est le cas pour beaucoup de coureurs. Je crois qu'on ne court pas par hasard. On n'adhère pas à un sport comme ça par hasard. C'est un sport qui est quand même exigeant, qui demande du temps quand on a envie de bien faire les choses. Et après, chacun a aussi ses objectifs. Mais en tout cas, la course à pied change des choses en nous, ça c'est certain. Et moi, vraiment, la course à pied, ça a été le début de beaucoup de changements en moi. Et après, j'ai eu recours à l'hypnose dans mes préparations pour certains ultras. Et c'est vraiment l'hypnose après qui a fait le reste du travail et qui a permis de changer beaucoup de choses en moi. J'étais un peu un puzzle éclaté et il a fallu que je recolle un peu les pièces. Et puis, voilà, la course à pied et l'hypnose combinée, ça a permis de recomposer ce puzzle. Et puis maintenant, je crois que. Enfin, c'est même pas moi qui le dis, mais il y a vraiment un avant et un après, quoi. Et la course à pied, voilà, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que je pouvais pas ne pas parler de moi fallait que les gens comprennent pourquoi est-ce que j'en étais arrivé à faire des ultra trails. Voilà, mais c'est mon truc et j'espère encore pouvoir faire ça de nombreuses années parce que ça m'apporte énormément, vraiment énormément. Voilà, de la sérénité, voilà, l'aventure. Enfin voilà, c'est des choses. Je crois qu'on a besoin, surtout actuellement, c'est une discipline fabuleuse et voilà, j'ai voulu partager ça aussi un petit peu, voilà, le fonctionnement, comment ça marche quand on fait de l'ultra, qu'est-ce qui se passe dans notre tête, qu'est-ce qui se passe dans nos jambes et qu'est-ce que ça fait bouger, quoi, à l'intérieur de nous, quoi.
Alors, il y a quand même des gens.
Je suis une pipelette, hein, donc faut m'arrêter des fois.
Non, mais il y a quand même des gens qui vont être très curieux parce que l'hypnose, on va dire, il y a la course. Bon, ça, on en parle toutes les semaines. Mais l'hypnose, c'est est-ce que c'était par rapport à la course ou est-ce que c'était par rapport à d'autres choses que tu as fait appel à l'hypnose?
Alors, au point de départ, vraiment ce qui m'a poussé à aller voir un hypnopraticien, c'est la course à pied. C'est parce qu'il y avait des aspects de l'ultra que j'avais envie d'essayer de travailler. Notamment, c'était surtout la perception et la gestion de la douleur physique, hein, puisque faut pas non plus se cacher. Hein. Il y a des moments dans la course qui sont très, très compliqués parfois, par moment. Il y avait aussi la perte du sens. Il y a toujours, même quand on fait un marathon, hein, il y a toujours un moment où on se dit, punaise, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Enfin, qu'est-ce que je suis? Putain, mais j'arrête, quoi. Stop, j'arrête, quoi. J'avais envie de travailler là-dessus. Et puis, en fait, ça a fait bouger d'autres choses. Ça a fait bouger d'autres choses. Là, ceux qui liront le livre, ou ceux qui ne feront pas de le lire, comprendront ce que je veux dire. Mais l'hypnose a vraiment accéléré les choses, quoi. Vraiment, ça a été. Ça a fait bouger les choses en moi aussi. Donc. Mais voilà, une hypnose, c'est vraiment un super outil, je pense même au niveau sportif, hein, parce que ça m'a quand même aidé aussi dans ma manière de gérer mes courses. Donc, c'est vraiment un très bel outil, loin de ce qu'on voit à la télé avec Mesmer et tout ça, quoi. Même si Mesmer fait de l'hypnose, hein, mais. Ouais, et moi-même, je passe mon DU d'hypnose en ce moment. Enfin, je suis en train de le préparer là, donc.
Ouais, c'est ce que tu m'avais dit, ouais. C'est là aussi un changement qui est intéressant, je veux dire. C'est que finalement, de dire je vais à l'hypnose parce que j'ai des trucs en course que je veux travailler et aller jusque dire je fais maintenant un DU d'hypnose, c'est un sacré parcours aussi, ça.
Ouais, après, l'hypnose, dans le lieu. Donc, moi, je travaille dans un bloc opératoire, hein, et l'hypnose a toute sa place au bloc opératoire. Donc c'est aussi une continuité au niveau professionnel. Ça a été, voilà, c'est sûr que le fait que, voilà, c'est un tout, hein, la course à pied, aller voir un hypnopraticien, voilà, ça a accéléré un peu les choses, ça a fait que, voilà, ça a cheminé en moi aussi, voilà, ça a fait bouger des choses en moi personnellement, mais aussi professionnellement. Donc il y a des choses qui ont évolué, beaucoup de choses qui ont évolué. Et puis voilà, pour en revenir un peu à l'hypnose, je crois que tout le monde fait de l'hypnose d'ailleurs. Je crois que quand on court, on fait de l'hypnose, quoi, aussi. Donc quand on conduit, on fait de l'hypnose. Enfin, quand on lit un livre, on fait de l'hypnose. Enfin, voilà, l'hypnose, c'est un état naturel, donc c'est vraiment quelque chose qui, après, quand on va vers un professionnel, lui, il est là pour partir de ce que nous on lui apporte, et puis après, c'est lui qui nous guide, quoi. Donc c'est vraiment très intéressant. Enfin, en tout cas, voilà, il y a plein de choses passionnantes dans cette discipline, et voilà, je suis content, je trouve ça très intéressant aussi, donc c'est cool, et je vais pouvoir après l'utiliser dans ma pratique de tous les jours au travail, quoi.
Yeah, tu vois, j'ai une question quand même, je me pose, c'est parce que j'ai fait une séance d'hypnose, il n'y a pas super longtemps, sur des histoires de confiance en moi, de freins, de limites internes, tu vois, enfin tout un tas de trucs comme ça que je voulais, à force de chercher, je me suis dit, je vais aller voir l'hypnose pour voir un petit peu, et la praticienne, on en parle un peu, elle me dit, oui, mais elle me dit ce que tu me dis. Oui, quand tu conduis, t'es en hypnose, etc. Et je me suis posé une question, mais je peux pas avoir la réponse comme ça. Par exemple, sur une course, tu estimes qu'à un moment donné, tu rentres en hypnose, à un moment donné?
Ouais. À partir du moment où tu commences à penser à autre chose qu'à la course à pied.
D'accord.
À partir du moment où tu, ouais, t'es en train de penser à tes enfants, ou t'es en train de penser, tiens, au boulot, tiens, qu'est-ce que je pourrais, voilà. Et là, en fait, t'es déjà en hypnose. T'es en train de faire quelque chose, mais ton inconscient est ailleurs. Enfin, tu es ailleurs, quoi. Tu es au moment présent, tu es en train de courir sur un sentier, mais ton esprit est ailleurs. Et voilà, t'es dans un état, on appelle ça un état de transe. Alors, c'est un mot qui va peut-être un peu faire bondir certains, mais ça s'appelle comme ça. Enfin, voilà, c'est un état t'es vraiment serein, quoi. Voilà, tu penses à des choses, enfin, voilà, t'es posé dans. C'est ça qui est bien, la course à pied aussi, d'ailleurs. Mais ouais, c'est quand tu il y a des moments dans la course à pied où tu bascules, ouais. Et même quand tu conduis, des fois tu conduis et hop, et puis d'un coup tu dis, ah, mais on est déjà arrivé ici. Et ben ouais, en fait, tout le laps de temps, tu étais dans ta voiture, sur la route, attentif à tout ce qui se passe autour, aux autres véhicules, aux feux rouges, aux stops, aux machins, mais ton esprit est ailleurs. Voilà, et ça, c'est un état de transe, quoi. C'est un état t'es dans une situation de voilà de t'es entre guillemets hypnotisé quoi parce que t'es en train de faire, t'es focalisé sur quelque chose et ton esprit va ailleurs.
Ouais, alors j'ai vu un chiffre, je ne ressortirai pas de tête, mais j'avais vu un chiffre sur, ils avaient fait des analyses de gens qui étaient en hypnose sur des routes, genre un Paris-Marseille en voiture ou un truc comme ça, où le temps finalement où ils étaient ailleurs, enfin, était énorme en fait. C'est-à-dire qu'on ne se rend même pas compte, c'est qu'à un moment donné, on a l'impression que le cerveau dit « bon attends, je m'occupe de ça, puis on part ailleurs, non ?»
Ben c'est ça, ouais. En fait, la conduite, c'est quand même quelque chose de relativement automatique, quoi. Tu tiens ton volant, tu gères ta vitesse. Enfin, ouais, maintenant, en plus, dans les bagnoles, tu n'as même plus besoin de gérer la vitesse. Tu mets ton régulateur et puis c'est parti, quoi. Donc, du coup, bah, ouais, ton cerveau, il s'occupe autrement, quoi, du coup. Mm. Et donc, ouais, ça m'étonne pas. Hein, ça m'étonne pas du tout.
Mais j'ai aucun mal aussi à voir, en fait, en course à pied. Parce que moi, il y a un nombre de fois où je suis totalement ailleurs. Mais alors, je pourrais te dire... Bon, je peux pas dire que c'est à chaque fois, mais il y a des moments, c'est vrai, ce que tu dis, tiens, on part comme ça, on se rend pas compte de à quel moment on arrive ou des choses comme ça, ça nous arrive en course. Il y a même pas besoin de faire des très longues distances à un moment donné, en fait, parce que ça peut arriver à tout moment.
Ah oui, oui, oui. Moi, ça m'arrive des fois le matin, je pars, j'aime bien courir très tôt le matin. Et voilà, à jeun, enfin, à la fraîche, enfin, voilà, j'aime beaucoup ça, et parce qu'il n'y a pas beaucoup de bruit en ville, enfin, c'est super, quoi. Et voilà, tu fais 8 km, ben en 8 km, allez, t'as peut-être couru 5 km voilà, en pensant à autre chose, à ce que t'allais faire dans ta journée. Tiens, les enfants, quand ils vont se lever, qu'est-ce qu'il va falloir que j'organise ? Enfin, voilà, tout un tas de trucs qui n'ont rien à voir avec ce que t'es en train de faire au moment présent, quoi. Mmh. Moi, c'est encore pire quand j'écoute la musique. Alors là, moi, la musique, ça me fait. Je vrille complètement, quoi. Je pars, voilà, je suis dans mes pensées et puis. Donc c'est non c'est vraiment c'est passionnant, hein. Enfin, c'est une discipline passionnante, enfin déjà la neuroscience et tout, c'est passionnant, enfin il y a, je pense qu'il y a tellement de choses encore à découvrir que c'est fabuleux, enfin voilà.
C'était un petit aparté, mais
c'est vrai bien, que je suis content qu'on parle d'hypnose parce que c'est
ouais, c'est intéressant d'en parler parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Puis c'est vrai, tu disais, on a l'image des spectacles, des trucs où ils endorment, où ils font, t'as l'impression qu'ils font faire n'importe quoi, etc. Mais en fait, il y a plein d'utilisations de l'hypnose. Tu en parlais aussi finalement dans les hôpitaux, dans les opérations, puisque on peut opérer sous hypnose finalement.
Bah, là où je travaille, et ça, c'est le cas. Alors c'est pas de, c'est-à-dire, alors pour vu qu'on en parle, je vais juste. Mesmer, par exemple, l'hypnose de spectacle, il fait de l'hypnose. Mmh. Il va chercher, avec des tests de suggestibilité, il va essayer de trouver des gens qui sont vraiment très, très réceptifs à l'hypnose, et c'est eux qu'il va faire monter sur scène. Mmh. Il sélectionne vraiment les gens qu'il va mettre sur scène. Il fait de l'hypnose, c'est des techniques d'hypnose rapide, et ça marche. Mmh. Nous, on fait des exercices au DU de catalepsie, c'est-à-dire on peut faire des mouvements aux gens alors qu'ils sont en état d'hypnose. Enfin, voilà, ça marche. Et ce qui se fait, par exemple, là où je travaille, c'est fait avec les techniques d'hypnose, hein, bien entendu, mais à côté de ça, on utilise aussi quand même des produits d'anesthésie pour quand même, c'est ce qu'on appelle l'hypnosédation. Et donc, on combine l'hypnose, les techniques d'hypnose, avec quand même des produits qui permettent quand même d'agir sur tout ce qui est récepteur de la douleur et parfois aussi un petit peu on utilise ce qu'on appelle du midazolam, donc c'est un benzodiazépine, et ça permet quand même d'avoir un état un peu de sommeil si vraiment l'hypnose plus le morphinique ne suffisent pas. Enfin voilà, je suis un peu dans des termes un peu techniques, mais ça se fait, voilà, nous, je dis nous, mais mes collègues, parce que pour l'instant je ne suis pas diplômé, mais mes collègues font de l'hypnosédation, et il y a des patientes qui sont opérées du sein en état d'hypnose. Et ça marche très très bien, et les gens sont souvent sont très contents, quoi. Sont demandeurs et sont très contents. Et ça a plein d'avantages, vraiment plein d'avantages. Enfin voilà, on va pas en parler parce que sinon on va en parler pendant 3 heures, mais voilà, ça a vraiment des avantages. Et attention, parce que c'est vrai que là on en parle comme ça, mais il y a des indications particulières. Voilà, c'est quand même très codé. Il y a des choses, voilà, c'est mesuré, le bénéfice, le risque. Enfin voilà, c'est tout est voilà, c'est, on peut pas. On peut pas vous opérer, je sais pas, vous faire une laparotomie et puis sous hypnose, quoi. C'est pas possible. Voilà, il y a des chirurgies qui sont, c'est faisable, et d'autres, non, c'est pas envisageable, quoi. Donc voilà, faut que ce soit aussi, il faut le dire parce que c'est important quand même que les gens, il faut clarifier un peu les choses, quoi, parce que tu peux entendre tout et n'importe quoi, donc Enfin voilà, un petit peu pour.
Ouais.
C'était la minute savante.
Ouais, moi en 2021, j'ai eu deux opérations. J'ai pas eu d'hypnose hein, pour ces deux opérations. Je sais pas si ça se fait pas, si ça se fait ou pas, ou j'en sais rien du tout. En tout cas, moi j'étais. C'était du local en plus et je voulais voir ce qui se passait. Ma curiosité, tu sais, moi je suis curieux, c'est pour ça que j'invite plein de gens, c'est par curiosité. Et donc quand je me fais opérer, je me dis bon, si je peux voir ce qui se passe, montrez-moi. Hein, donc comme ça, j'ai vu l'intérieur de mon genou pour l'opération de mon ménisque. Et la vasectomie, bon, c'est un peu différent. On voit pas grand-chose à part les gens qui regardent. Et je me dis peut-être que là, j'aurais préféré être hypnotisé sur cette période-là où il y avait 10 personnes qui regardaient un petit peu tout ce qui se passait dedans, parce qu'il y avait les internes, etc. Tu sais. Mais franchement, vous les soignants, vous avez l'habitude. Mais c'est vrai que enfin, sur le coup, et puis tu sais, il y a des internes de première année qui passaient et on disait venez, venez, venez. Allez, rajouter un petit peu de monde, ça faisait un peu la grande fiesta. En plus, en plein Covid, t'as pas le droit de faire des fiestas et tout. D'un coup, tu te retrouves avec plein de gens autour de toi, pile sur l'opération de la vasectomie. Donc, je vous laisse un peu imaginer la scène. Et quand j'ai raconté ça dans un des podcasts, les gens m'ont dit oh, punaise, je veux pas vivre ça, je veux être endormi, etc. Bref, ça, c'était la petite anecdote, petite passage.
Ouais, après. C'est pas non plus très sympa, enfin, surtout si t'étais, tu devais avoir une anesthésie peut-être loco-régionale ou une rachie anesthésie.
Ouais.
Je sais pas, parce que si t'étais, voilà, je pense qu'il y a un moment, faut aussi respecter quand même les, voilà, je pense que ça se demande quand même à la personne qui est opérée, est-ce que ça vous dérange s'il y a des étudiants qui viennent, je pense que ça se fait, quoi. C'est comme dire bonjour, se présenter, enfin, il y a des choses qui vont pas très très bien à l'hôpital quand même, mais je pense que c'est aussi le fruit du mal-être de beaucoup de gens, voilà, et les conditions qu'il y a et tout ça, mais je crois qu'il faut pas oublier quand même certaines choses de base quand même, ça s'appelle le respect, quoi. Enfin voilà, je sais pas si tu mettras au montage, ça reste peut-être entre nous, mais je crois qu'il y a quand même des choses essentielles qu'il faut pas oublier quand même. Je crois que le respect des patients qu'on prend en charge, ça passe avant tout quand même, et je pense que parfois, peut-être même moi, hein, je pense que parfois je l'oublie aussi, hein, mais c'est important quand même de faire attention, quoi. Quand t'as, surtout en période Covid, même si tout le monde est masqué, je crois que bon, c'est, avoir 15 personnes autour de soi, c'est pas forcément top, quoi.
Bon, mais bon. C'était une parenthèse. En fait, j'en rigole beaucoup, ouais. Parce que quand je raconte l'anecdote et tout, je regarde les têtes des gens, ils disent oh punaise, pas ce truc-là et tout. Moi, ça m'a fait rire. Bon, franchement, ça m'a fait rire et tout. Surtout le moment où après, il appelle les étudiants et puis venez, venez, venez et tout. Et je vois, tu vois, 2-3 filles qui arrivent et tout, qui regardent, etc. Je dis bon, allez, hop, de toute façon. Et tu sais, ça me rappelait un peu les femmes qui accouchent quand elles disent bon, de toute façon, d'un coup, t'as tout le monde qui regarde toute ton intimité autour de toi, etc. Toi, tu connaîtras jamais ça. Tu sais, ma femme, elle me disait ça. Et ce jour-là, j'ai repensé à elle. C'est sur l'opération, j'ai dit, ah bah, j'ai un petit peu une vision des choses maintenant, quand même.
Ouais,
même
bah
si
ouais.
C'est un peu cette vision-là. Bon, allez, ça, c'est une parenthèse. On va revenir sur ton livre, parce que je t'ai invité pour parler de course à pied, pas pour parler de ça. Il y a un truc que tu dis aussi sur, qui est intéressant, que tu abordes dans le descriptif, pour ceux qui seront intéressés. C'est parce que c'est un truc important, et t'as dit que t'allais courir tôt le matin. Après, je sais pas à quelle heure c'est tôt, etc. Moi, c'est ce que j'appelle le mode fantôme. C'est-à-dire que moi, je pars courir tôt. Genre demain ça va être 5h15, tu vois, un truc dans le genre là, dans cette zone là à peu près, pour revenir. En fait, ma fille, mon idée c'est qu'elle se rende même pas compte que je sois parti courir, tu vois, t'es un peu dans le genre là.
Tout à fait, ouais. Ça m'est arrivé même de me lever à 4h pour faire une sortie de 4 ou 5 heures et être à la maison pour 10h le matin, quoi. Donc ouais. Complètement, c'est fatigant, ça demande beaucoup d'énergie et voilà, et ça demande, après avec l'expérience t'arrives à moduler et à relativiser aussi, parce que des fois tu te dis ah punaise, faut que je fasse une sortie de, je sais pas moi, 2h30, et au final bon, il y a un moment, faut aussi c'est pas parce que tu vas manquer une demi-heure d'entraînement que tu vas être encore plus mauvais ou que tu, enfin voilà, c'est faut, voilà, mais ouais, je suis un peu de ce style là ouais, me lever vers 5h du matin et aller courir une heure et demie, et puis après hop, tu reviens, tu prends ta douche, le petit déj, et hop, tu vas au boulot, quoi. Ou tu prends le petit déj en famille, quoi, donc c'est cool aussi, quoi.
Ouais, dans un épisode précédent, j'avais reçu Damien donc Life Runner Life 35, qui lui, en plus, il passe par la boulangerie. Alors, je sais pas si toi tu fais pareil, il va chercher le pain, etc. Franchement, pour la famille, c'est cool, hein. Tu te lèves le matin, tu te rends même pas compte qu'ils allaient courir à peine, et puis en plus, t'as les croissants ou les pains au chocolat ou je sais pas ce qu'ils leur ramènent. Moi, je trouve quand même, tu vois, c'est cool. Je sais pas si toi tu fais des boulangeronnes comme ça.
Je le fais pas souvent, mais c'est rigolo, je l'ai fait la semaine dernière. La semaine dernière ou la semaine avant, je sais plus, et ouais, ils étaient super contents, le pain frais tout chaud, là, et puis ouais, les chocolatines. Mmh. Ou pain au chocolat, voilà, on va pas, mais ouais, c'est, Ouais, ça m'arrive de temps en temps, pas tout le temps, hein. Faut pas non plus. Voilà, je sais pas.
Tu surveilles ton alimentation?
Alors, depuis 2 mois et demi, non.
Ouais.
Mais là, ouais, beaucoup plus. Bah, là, je sais que maintenant j'ai le Grand Raid qui arrive, donc et il y a le Grand Raid des Pyrénées aussi. Je me suis inscrit sur le 80 du Grand Raid des Pyrénées. Donc ouais, j'essaie. Là, je vais essayer de retrouver mon poids de forme. Ouais, je me suis un peu laissé aller, mais ça fait du bien aussi de tous ces dogmes un peu autour de la course à pied. Des fois, c'est un peu usant, quoi. Le coureur parfait n'existe pas, je crois. Enfin, il doit exister, mais bon, ils sont recordman du, il est recordman du monde du marathon en moins de 2 heures, quoi. Enfin, voilà, je veux dire, il y a un moment où on est. Faut être indulgent avec soi-même, quoi. Et ouais, moi, là, j'ai profité à fond de Noël, j'ai profité à fond. Enfin, voilà, je me suis pas posé de questions. Et puis là, bah, voilà, comme j'ai un objectif et que j'ai envie de, voilà, de le faire correctement, bah ouais, je vais faire un petit peu plus attention. Je vais faire plus attention, ouais.
Mais
Mais je suis
c'est
pas
long,
un.
après, comme période. Attends, parce que si tu me dis le Grand Raid de la Réunion, c'est septembre?
Octobre, donc il y a dans 10 mois, ouais.
10 mois quand même. Faire attention, ça
Ouais.
fait long.
Alors, je fais attention, mais je fais quand même des. Ouais, j'ai envie de bouffer un truc au chocolat, je bouffe un truc au chocolat. J'ai envie de me bouffer un burger frites, j'en mange un. Enfin, c'est toujours pareil. C'est si tu manges un burger frites tous les soirs pendant 10 mois, ouais, c'est sûr, c'est pas bon, quoi. Mais si t'en manges un de temps en temps, enfin, faut se faire plaisir aussi, quoi. Là où moi, en plus, je suis un gros gourmand, c'est juste ça. C'est de la gourmandise qu'il faut juste un peu freiner. Bon, c'est pas. Voilà, quoi. Puis. Le jeu en vaut la chandelle, quoi. Enfin, après, je sais très bien que c'est pas parce que je suis à 72 kilos, c'est pas parce que même si j'étais à 74 en faisant le grand raid, bon voilà, c'est pas, on s'en fout, quoi. Enfin,
Bah, t'es vraiment léger comparé à moi
c'est
en fait.
pas,
Hein.
enfin voilà.
En plus, tu vois, alors franchement, parce que alors, moi, tu vois, j'en fais 10 de plus. Si je pouvais faire 74, je me dis, bon, à la limite, genre en fait, je sais même pas, tu vois. Quand j'étais descendu à 78, quand même, je m'étais rendu compte pour le marathon que quand t'es à 78, c'est un peu plus facile à te ramener, cette histoire-là, que quand t'es à 82. Puis alors, je te raconte même pas quand j'étais à 92 et puis à 108, alors là, c'était carrément intransportable. Quand j'y repense, je me dis, mais comment j'ai fait? Mais c'est vrai que ces histoires de poids, de surveillance, etc. Et tu sais, c'est un débat. Quand j'étais au club, on en rigolait parce qu'il y avait une fille qui disait je ne fais pas, qu'elle faisait pas de sortie longue si elle arrivait, elle n'avait pas son burger. Burger frites, c'était sa récompense, sa sortie longue du dimanche. Et un jour, elle nous l'a dit. Elle a dit non mais moi, franchement, si j'ai pas mon burger frites, ma petite sauce, etc. Le dimanche après ma sortie longue, je n'y vais pas. Alors tu vois, c'est chacun a ses trucs. Hein.
Ouais, tout à fait. Ah, mais après, je respecte. Il y a des gens qui sont très scrupuleux, qui pèsent, qui. Ouais, écoute, bon, ouais. Comme je dis, chacun fait comme il veut. Voilà, je suis pas là pour dire faites ci, faites ça. Chacun fait comme il a envie. Voilà, moi, je suis pas. C'est pas mon style. Enfin, voilà, j'essaye de pas, voilà, de pas rentrer dans l'extrême, quoi. Enfin, voilà, je fais attention. Je mange plus de légumes. Je mange moins de protéines animales quand même. Enfin, j'ai quand même la course à pied a quand même changé ma manière de m'alimenter. Ça, c'est évident, hein. Mais voilà, je me restreins pas, en tout cas. Enfin, voilà, s'il y a une belle entrecôte, je la mange, quoi. Il n'y a pas de problème. Voilà, et puis j'aime beaucoup les plats végétariens aussi. Enfin, voilà, je crois que voilà, je suis pas, voilà, c'est pas un truc qui me, enfin, en tout cas, je pense que c'est pas un truc qui m'obsède, quoi. Mais c'est vrai que le poids, c'est, bah, en course à pied, voilà, c'est quand même, comme tu dis, hein, quand tu pèses 78 ou que tu pèses soit 88, c'est sûr que c'est pas pareil. Mais comme, voilà, chacun ses objectifs aussi, quoi. Après, c'est ça qu'il faut regarder aussi, quoi. Voilà, c'est toujours pas, enfin, voilà, faut s'adapter.
Ouais, parce qu'après, toi, t'as une âme compétitrice.
Un peu, mais pas non plus. Au début, ouais, j'étais vraiment là-dedans, quoi. J'étais, ouais, putain, j'ai fait ce temps-là, c'est de la merde. Et puis en fait, au final, enfin, au fur et à mesure de ma pratique, même de l'ultra, je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment ça que je cherche, quoi? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça l'essence? Est-ce que c'est ça qui me donne envie de courir? Et puis au final, tu réfléchis, tu te dis, mais non, c'est pas ça. C'est voilà, j'ai envie de vivre des aventures, de voir des super paysages, d'aller dans des endroits où bah finalement peu de monde va parce que parfois c'est pas accessible à tout le monde. Et enfin voilà, voilà, le partage aussi, les moments que tu vis avec les coureurs qui sont à côté de toi, quand tu es dans le dur, quand au contraire ça va bien, ou tu déconnes, enfin tous ces moments de partage, tout ça, voilà, c'est, enfin voilà, là au jour d'aujourd'hui, je suis dans cet état d'esprit, quoi. Et je me prends plus la tête à savoir si je vais courir en 4-15 au kilomètre, ou voilà, enfin, Sauf quand je fais des séances de fractionné où tu as des objectifs voilà, d'allure, bon voilà, tu fais attention, mais sinon, si tu as besoin de marcher, tu marches. Voilà, si tu as envie de courir, tu cours. En tout cas, sur un ultra, quoi.
Alors tiens, c'est une question qui va intéresser peut-être ceux qui ont jamais fait d'ultra, mais qui sont en train de se poser la question. Tu parlais de séances de vitesse, etc. Tu gardes des séances de vitesse quand tu fais de prépare de l'ultra?
Ouais. Je pense que c'est important. C'est quand même ce qui te permet d'avoir la caisse et c'est ce qui te permet aussi de progresser. Donc ouais, j'ai là, tu vois, par exemple, là, jusqu'à mars, là, je fais presque que de la remise en forme, préparation physique. Enfin voilà, vraiment sans trop me prendre la tête non plus. Mais après, alors je ne sais plus mon programme là, de tête, mais je crois que mai-juin, il y a 2 fois 4 semaines de travail de VM. Quoi. Mm. Donc voilà, pour voilà, remettre un peu toute la machine en route et à mon niveau, quoi. Enfin, sans non plus me mettre de pression, quoi, hein, mais pour être en forme, quoi. Vraiment être, voilà, être en bonne condition de physique. Quoi. Et après, tout l'été, ce sera du travail spécifique de dénivelé, de travail de longues séances, enfin voilà, tout ça. Quoi.
Tiens, une question, parce qu'on en a parlé l'autre jour, avec un autre invité, j'ai pas encore diffusé, mais à ce moment-là, mais moi, je sais, on en a parlé. Tu travailles la descente?
Pas trop, et pourtant, c'est un truc que j'adore. Je préfère descendre que monter. Alors il y a une c'est rigolo parce qu'à Bordeaux il y a un sentier qui s'appelle le chemin de Tircu. Mmh. et c'est un sentier que j'aime beaucoup parce que bon, ça monte quand même bien, il fait je crois 65-70 mètres de dénivelé positif sur à peu près 500 mètres, donc c'est plutôt une bonne petite côtelette, quoi. Donc c'est là que je fais souvent beaucoup d'aller-retour. Et il y a des fois certaines séances où c'est tranquille en montée et vite en descente. Donc ça m'arrive de travailler, mais pas non plus de manière très assidue, quoi. Mais j'adore ça. Je préfère vraiment descendre que monter.
Mmh. Oui, parce que dans ton bilan de la rune tout à l'heure, quand je disais, c'est, tu parlais de la descente justement en disant que ça a été un grand kiff, ou je peux commenter, tu le dis. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui adorent la descente, puis il y a des gens qui détestent la descente. Et la descente, ça se travaille. Et je me rappelle quand même d'avoir eu, comment il s'appelle, Johan Stuck, qui disait qu'il était pas à l'aise du tout en descente, qu'il se faisait prendre des places, etc. Il se faisait doubler dans les descentes, ça le faisait enrager. Donc il y en a qui sont très à l'aise dans les descentes, et puis d'autres qui le sont moins. C'est pour ça qu'il y a une question qui peut, parce que tout le monde dit on fait les séances de côte, mais comme tu dis, on peut faire des séances de côte en descente aussi. Enfin.
Ouais, tout à fait. Ouais, ça se fait. Mais après, c'est aussi, je pense qu'il y a il y a quelque chose aussi de, je sais pas comment expliquer, mais de, il y a cette envie aussi de s'engager. Tu vois, il y a des gens qui ont un blocage aussi, parce que d'un coup, tu arrives dans une pente qui est très raide et faut t'engager, faut pas trop réfléchir. Faut être quand même, mine de rien, au niveau des cuisseaux, faut quand même être un peu prêt, quoi, à encaisser. Et je pense que ça dépend de chacun aussi. Voilà, il y a des gens qui ont peut-être beaucoup d'appréhension aussi à descendre. Donc c'est un facteur qui rentre en compte. Et puis aussi, mine de rien, moi je suis un peu plus orienté ultra, c'est vrai que sur un ultra, tu descends pas non plus comme un fou, quoi, parce que ça peut vraiment te casser beaucoup de fibres musculaires. Donc quand tu fais plus de 100 km, si tu te dis ouais, allez, je suis au kilomètre 10, j'ai envie de faire ces 2 km de descente pleine balle, bon, je suis pas sûr que voilà, ce soit la meilleure des stratégies pour pouvoir finir ton ultra de la meilleure des façons, quoi. Donc ça dépend, ouais, ça dépend aussi de chacun, quoi. Mais c'est vrai que c'est un paramètre qui est important. Des fois tu reprends beaucoup de monde effectivement en descente, hein. Mais des fois aussi après ils te reprennent dans la montée, donc tu vois, comme quoi ça dépend de chacun, je pense, aussi des aptitudes de chacun.
Mmh. Bon, j'ai eu un coach qui disait de toute façon la montée gagne toujours, par contre tu peux effectivement gagner beaucoup de places et en perdre aussi beaucoup sur les plats, sur les descentes, sur ces enchaînements-là, en fait, hein, aussi, parce qu'au bout d'un moment, de toute façon, les montées, tout le monde finit à pied, quoi, enfin, en marchant.
Les montées, ouais, mais même si tu regardes des vidéos du Grand Raid, par exemple, des premiers, ils ont une marche très active en montée. Mm. Ils sont pas en train de courir, mais ils ont une marche très active, très rythmée. Et après en descente, par contre, ouais, il trottine. Hein. Moi, tu vois, j'aurais dit l'inverse. Moi, j'ai cette impression que, mine de rien, en tout cas pour ceux qui sont devant, c'est pas dans les montées que ça se joue, j'ai l'impression. Enfin, je crois que c'est surtout dans les descentes. Et ouais, c'est vrai que bah, ouais, après, quand tu es en milieu de peloton ou en fin de peloton, bah, ouais, tu passes beaucoup plus de temps à marcher. Mais ça enlève pas la difficulté de l'épreuve, quoi. Et l'effort que ça représente.
Ouais.
Mais ouais, tu marches beaucoup. C'est sûr qu'il y a, voilà. Après, c'est pareil sur des sorties rando course dont je parlais. Ben, c'est des choses sur lesquelles tu travailles, quoi. La marche rapide. Enfin, c'est des choses qu'il faut travailler.
Oui, puis après, ça dépend aussi du profil de tes courses.
Ouais, ben, notamment tu me parlais des connaissances que tu avais qui étaient sur l'ultramarin. Ben, par exemple. Sur les séances d'entraînement, c'est hyper important d'apprendre à être capable de marcher rapidement, quoi, à optimiser sa marche. Ça, c'est un autre conseil, tu vois, je le donne un peu plus tard, mais c'est un conseil, ouais, que je pourrais donner, c'est vraiment travailler la marche, quoi, la marche active.
Mais tu fais bien parce que on en avait parlé avec des invités sur ces histoires de marche. Et tu vois, alors sur le trail, marcher, c'est normal, mais alors que ceux qui viennent de la route, ça c'est un truc qu'ils connaissent pas en fait. Enfin, c'est même une honte. Enfin, combien de fois j'ai vu des gens qui disent un marathon, t'as pas le droit de marcher, etc. Moi, sur mon marathon, j'avais entendu ça, je ne sais pas combien de fois. Je l'ai même entendu pendant la course avec des gens qui disent non, t'as pas le droit de marcher, t'as pas le droit de marcher, faut courir. Sur le trail, c'est un truc qui n'existe pas, ça, de toute façon.
Non. Mais après, tu vois, c'est pareil. C'est aussi ça. Des fois, je trouve que la course à pied, il y a des dogmes, tu vois, qui sont indéboulonnables. Et pourquoi sur un marathon, tu n'aurais pas le droit de marcher? Enfin, si tu as besoin juste d'une minute pour retrouver ton souffle, retrouver un semblant de lucidité, ben ouais, vaut peut-être mieux parce que la minute que tu vas prendre à marcher, je sais pas, au 30e, eh ben, peut-être que tu vas moins perdre de temps après le 35e, quoi. Et parce que le 30e, c'est le voilà, on sait tous que c'est le kilomètre le plus dur. Pourquoi est-ce que ce serait interdit? Bon, tu vois, enfin voilà, je trouve que des fois la course à pied, il y a trop de choses qui sont. Moi, je crois qu'il faut s'adapter à ce qu'on est, en fait, quoi. Et voilà, et si tu as besoin de marcher 8 minutes, ben, marche 1 minute, quoi. Enfin, moi, je sais pas, c'est mon ressenti, mais voilà, plutôt que de se griller et d'aller encore plus dans le mur. Bah voilà, prends 1 minute, marche, bois un petit truc, et puis voilà, et après tu reprends une foulée, même si tu trottines, mais voilà, enfin voilà, je crois que voilà, des fois je trouve que c'est trop borné. Il faut être rigoureux, c'est certain, je suis d'accord, la course à pied c'est un sport exigeant, mais il faut aussi être capable d'accepter des choses, voilà, enfin, ce qu'on a besoin, quoi, et adapter à notre situation, quoi, enfin,
Mais alors,
même sur route.
je vais même te dire, c'est que j'avais fait des recherches à l'époque sur la marche, parce que j'ai fait pas mal notamment des vidéos, où je fais quelques épisodes de podcast sur le sujet, mais aussi quelques vidéos sur ma chaîne YouTube. Et j'ai fait des recherches, j'ai même lu des livres, je suis en train de perdre son nom, j'ai perdu son nom, Galloway. Non, c'est pas Galloway. Bon, je sais plus son nom, qui a été marathonien olympique. Et qui a une méthode autour de la marche. En disant, quand vous commencez à courir, faut commencer par marcher, et qui le garde super longtemps. Et dans un de ses livres, il explique que des gens qui marchent pendant un marathon arrivent devant d'autres qui veulent s'évertuer à courir pendant toute la course. Tout ça. Alors, bien sûr, on parle pas des Kényans. On parle pas des mecs qui courent en 2h15, 2h20, etc. Mais dans des gens qui courent, on va dire, plus lentement, bah, les analyses montrent qu'en fait, des gens qui marchent régulièrement, ça fait baisser la fatigue, ça fait baisser le cœur, etc., arrivent finalement à aller plus vite que des gens qui ne feraient que courir, mais qui s'épuisent à courir.
Et toi, tu. Ouais, non, mais ça m'étonne pas. Hein. Il faudrait que tu me donnes la référence. Ça m'intéresse, tu vois, du bouquin, là. Mais ça m'étonne pas. Tu vois, des fois, mais ça m'arrive de marcher sur les fins de séance, en général, fin de séance d'entraînement. Je me prends 5 minutes et voilà, je marche assez rapidement. Et tu vois, au final, je suis à 9 minutes au kilomètre. Et tu vois, au final, c'est pas beaucoup plus. Enfin. Que quelqu'un qui trottine, qui doit être allé à 6:30 peut-être, allé 7, je sais pas, je dis n'importe quoi. Au final, c'est pas énorme la différence, quoi. Alors que tu marches de manière active, non, ça m'étonne pas, mais il y a des fois l'organisme, enfin nous, enfin, c'est toujours pareil, on est des sportifs amateurs en grande majorité, donc à moins d'avoir un emploi du temps qui permet de s'entraîner, je sais pas moi, à 10 ou 15 heures, bon, moi, c'est ce que je fais, c'est ce que j'arrive à faire, mais enfin, comment je pourrais expliquer ça? Après, ça dépend toujours de ce que chacun veut faire, mais l'aspect performance, des fois, est trop ancré, et on en oublie que bah, des fois, ouais, y a besoin de souffler juste une minute pour pouvoir mieux repartir, quoi.
Mais alors là, tu vois, quand même, j'ai dit, attends, il est papa, t'as quoi? Deux enfants, tu m'as dit?
Ouais.
T'arrives à t'entraîner 10, 15 heures?
Sur les grosses semaines, hein, je parle.
Sur les grosses semaines, il y a des gens qui se disent, mais comment il fait? Alors, tout à l'heure, on a parlé un peu des sorties un peu fantômes, hein?
Oui.
Mais t'as d'autres astuces? Parce que là, c'est vraiment. Et puis, j'ai écouté l'autre jour un podcast, il y a des questions qui sont posées en disant, mais comment les gens qui ont des enfants font pour courir comme ça, s'entraîner sur des telles courses, etc. Toi, t'as des astuces là-dessus?
Ben, à part se lever très très tôt, pas vraiment. C'est vrai que. Moi, ça a été compliqué par moment à la maison, hein, quand même, faut pas se mentir non plus. Hein. Ouais, deux enfants, là, le plus grand, il a 5 ans, et le plus petit, il va avoir 3 ans au mois d'avril. Donc, ouais, ils étaient petits. Donc, j'ai tiré sur la corde, ma femme, elle me l'a fait comprendre au bout d'un moment, et ouais, j'ai clairement un peu abusé. Donc, c'est vrai que c'est très compliqué. Mais en se levant très tôt le matin, comme je dis, voilà, 4h, 4h30, il faut avoir envie, hein, c'est sûr, mais ça te permet de ne pas empiéter sur la journée. Donc, par exemple, tu te lèves, moi, ça m'est arrivé de me lever à 4h30, de rentrer à 10h, j'avais fait une sortie de 5h, un truc comme ça, donc ce qui est déjà super. Et puis, voilà, après, j'essaie d'aller au boulot en vélo, donc ça me fait aussi, bah, mine de rien, ça me fait 30 minutes à l'aller, 30 minutes au retour, ça me fait une heure de vélo par jour. Quand j'arrive à me lever, hein, bien entendu. Mais quand je suis en phase de prépa, je suis plus motivé. Donc ouais, c'est en gros, ça me fait une heure de vélo par jour. Et puis le soir, j'essaie de mettre une séance d'étirement ou de PPG, voilà, en fonction de comment je suis dans le planning d'entraînement, voilà quoi. Après, ça va assez vite, hein, finalement. Puis je fais une sortie de 5 heures le samedi, bah, t'as déjà la moitié des 10 heures qui sont prises. Hein. Donc après, c'est dispatché sur le reste de la semaine. Donc ouais, très tôt le matin. Voilà, moi, c'est principalement ça, quoi. Et puis, quand il y en a un chez à l'école et l'autre à la nounou, bah, et que, voilà, bah, tu cours la journée, quoi, forcément. Comme tout le monde quand t'es en repos, quoi.
Je te confirme, c'est bien Jeff Galloway, qui sur les analyses de. En fait, il a créé une méthode qui s'appelle Run, Walk, Run. Il faut savoir quand même que Jeff Galloway, alors, il a fait une attaque cardiaque l'an dernier, mais il a refait un semi-marathon cette année. Je le dis, il a 77 ans, je crois. Il était athlète olympique en 1972 sur 10 000 mètres. Il a fait, je ne sais pas combien de courses, de marathon, etc. Et chaque année, il fait la course de Disney, le semi-marathon de Disney ou je sais pas quoi, tu vois. Et il a fait des méthodes complètes sur cette méthode-là, en fait. Et il constate que, en fait, l'économie économisée pendant les courses, quand tu marches, les coureurs marcheurs finissent par être plus rapides que des coureurs à un certain niveau, en fait, qui s'évertuent à courir, mais qui s'épuisent au fur et à mesure. Et en fait, c'est dans son livre, donc il a sorti un bouquin, il y a des méthodes. Au début, c'est très surprenant parce qu'il fait marcher les gens du style, tu marches 15 secondes, tu cours 15 secondes, ou tu cours 10 secondes et tu marches 50 secondes, tu vois, des trucs comme ça, pour les amener à courir. Mais en fait, il le maintient très longtemps, cette histoire-là, alors que pourtant, c'est un coureur de 10 000. Donc, un coureur olympique de 10 000, il marche jamais, tu vois, sur une course, c'est pas possible. Mais il s'est rendu compte à partir des distances, et il disait notamment sur les marathons, etc., que c'est vrai que, bah, il y a des marcheurs-coureurs sont plus rapides que des coureurs purs.
Ouais, tu vois, comme quoi, mais j'ai noté, et écoute, je vais lire ça aussi, ça, je trouve ça intéressant. D'avoir aussi des fois d'autres manières de voir les choses, c'est toujours enrichissant.
Donc, alors, merci, tu vois, pour les astuces. Alors, on revient sur ces astuces de course. Mais c'est vrai qu'en fait, je crois que tout le monde en a un petit peu cette problématique de gestion, de se dire comment on fait pour cumuler l'entraînement, la vie de famille, la vie de couple, etc. Ça devient super compliqué. Moi, en ce moment, là, on enregistre, je dis, on est le 18 janvier. Je suis dans ma période de mon 496 challenge. Aujourd'hui, j'ai couru 18.
Ah, j'ai vu ça, ouais.
Et demain, 19. Donc là, tu vois, on commence à taper autour des 2 heures. Moi, je suis tranquille en entrepreneur à la maison, encore tranquille. Bon, aujourd'hui, j'ai fait 6 fois 3 kilomètres dans ma journée. J'ai réparti ça comme ça. Et entre les trucs, je travaillais. Donc, je prépare la petite vidéo pour parler de ça, etc. Bon, quand l'épisode sera diffusé, la vidéo sera en ligne, je vous mettrai tous les liens. C'était très drôle, etc. Mais le jour où je dois faire les 30 bornes, c'est un week-end, et j'étais en train de calculer, je me suis dit, oh, putain, attends, il va falloir que je me lève à 4h du matin pour être à la maison à 7h, parce que ma femme est en formation ce jour-là, j'ai ma fille qui a 4 ans et tout, je dis, comment, enfin, tu vois, je suis en train de calculer ce truc-là, mais on est tous là-dedans, en fait, parce que je te parlais tout à l'heure de Damien, et ce matin, il a fait une séance de fractionné à 5h15, donc on a tous cette gestion-là, et c'est vrai qu'il y a un moment donné... Le temps, on a tous le même temps, donc à un moment donné, il faut essayer de grappiller sur les moments comme ça, et ça arrive. Par contre, l'histoire des week-end shocks, c'est quand même pas si simple que ça à placer.
Non, ça c'est clair. Ça c'est clair. Après, ce qui est faisable, c'est de mettre une séance le vendredi soir, de faire une séance de vélo, une heure et demie sur un home trainer, tu fais tourner les jambes. Le lendemain matin, tu fais, 4h30, 5h de rando-course. Tu peux faire du vélo l'après-midi et puis du trail encore le dimanche, quoi. Donc, ouais, mais bon, voilà, c'est toujours pareil. Après, c'est des cycles. Hein, quand tu regardes un peu les programmes, comment c'est foutu, c'est des cycles. En gros, en général, souvent, ça tombe les week-end shocks sur la troisième semaine. Souvent, c'est des cycles de 4 semaines d'entraînement et à la troisième semaine, tu as un week-end choc. Mais bon, c'est vrai que ça demande beaucoup d'énergie, ça te fait cumuler aussi beaucoup de fatigue. C'est un peu le but en même temps, hein, de fatiguer l'organisme, de le stresser pour le mettre vraiment, pour qu'il s'adapte en fait. Mais voilà, il y a des fois, je crois qu'il faut aussi, comme je disais, il faut s'adapter. Et puis quand tu sens que c'est pas le bon moment, il faut annuler une séance, quoi. Faut pas forcer, quoi.
T'as un coach?
Il peut y avoir des imprévus hein, aussi. Du tout. Non, autodidacte. Je puise à droite, à gauche, dans les bouquins. Et puis après, il y a un moment où tu sais ce que tu as besoin, tu sais à peu près vers où faut aller. Et puis voilà, tu le fais à ta sauce, quoi. Voilà. Et puis, mine de rien, un coach sportif, ça a un coût aussi. Donc voilà, j'ai pas forcément les moyens pour supporter ça dans mon budget. Donc voilà.
Bon, après, ouais, quand tu vendras plein de bouquins.
Ouais, je suis pas du tout dans cet objectif-là en plus, donc c'est vraiment... Bon, après, on sait jamais ce que le destin nous réserve, hein, mais voilà, c'était...
Mais franchement, il y a, je crois, 75% des Français qui veulent écrire un livre. Et il n'y en a que 1% qui finissent par écrire un livre qui est publié. Enfin, ou 1 ou 2%, tu vois, à peine. Donc, ce qui veut dire que... Tu vois, c'est un truc, une discussion qu'on a souvent. Moi, dans mon entourage, je ne connais pas de marathonien. Et des coureurs ultra, j'en connais aucun. Alors, à part, bien sûr, quand tu vas en club où là, tu tombes sur des gens qui font des trucs dans tous les sens. Mais dans mon entourage, j'en avais aucun de ces gens-là. Et des gens qui ont édité un bouquin, j'en connais personne. Tu vois, je connaissais personne, etc. Tel point que, à Noël, pas Noël dernier, mais le Noël de l'an dernier, quand j'ai dit à ma mère que j'avais mon bouquin qui était en vente sur Amazon, elle m'a pas cru. Sur le coup, elle m'a dit, t'as un bouquin sur Amazon? J'ai dit, bah oui, je dis, elle l'a acheté, tu sais. Quoi? T'as un bouquin sur Amazon? Bah oui, j'ai un bouquin sur Amazon. Mais, enfin, on connaît personne, en fait. Tout le monde a envie d'écrire un bouquin, personne ne le connaît. Enfin, il y a personne ou très peu de gens qui arrivent à le faire. Et donc, rien que pour ça, tu vois. Moi, je dis, parce que c'est une sorte d'ultra aussi d'écrire un bouquin, en soi. Tu dis, finalement, t'as passé un an d'écriture, relecture.
Ah, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça, un an, ouais, un peu plus d'un an même, parce que, ouais, mais c'est vrai que, ouais, c'est toujours ce qui fait, enfin, je sais plus ce que, je crois que je le cite, en plus, c'est Mike Horn qui dit, je sais plus cette phrase, je l'ai notée dans mon bouquin d'ailleurs, je l'ai citée parce que je trouve qu'elle représente un peu l'état d'esprit dans lequel je suis. Alors, attends, je vais essayer de la retrouver. Je crois que c'est celle-là. Voilà, pour se mettre en marche, il suffit d'avoir 5% de réponses à ces questions et les 95% restants viennent le long du chemin. Ceux qui veulent 100% des réponses avant de partir restent sur place. Et en fait, voilà, je crois que c'est ça. Il y a 75% des Français qui veulent écrire un livre et comme tu dis, peut-être, je te fais confiance sur les chiffres, mais il y a 1 ou 2% qui le font. Et voilà, c'est juste qu'il faut se mettre en mouvement, en fait. Faut oser, quoi. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué. Hein. Ça a été vraiment, moi, j'ai mis beaucoup de temps avant de me dire, putain, je vais écrire sur ma, sur mon, de, il y a quelque chose de moi qui va être dans ce livre, mais quelque chose de l'ordre de l'intime, quand même, quoi. Donc c'est pas évident, mais il y a un moment, je me suis dit, mais attends, mais je le fais pour mes gamins, je le fais pas, voilà. Et puis, si les gens, ils ont envie de l'acheter, ils l'achèteront. S'ils ont pas envie, ils l'achèteront pas. Si, voilà. Je crois qu'il y a, j'arrivais à un stade où je crois que j'ai plus envie de me soucier de ce que les autres pensent et je crois qu'on devrait tous faire pareil parce que je crois que souvent ça crée quand même des conflits et des divisions. Et voilà, chacun est libre de faire ce qu'il a envie et la personne qui a envie de le faire, elle le fait et puis ça plaît pas. Je crois que voilà, chacun peut garder son avis ou le donner, mais si c'est constructif, quoi. Enfin, voilà, c'est un peu la vision que j'ai de ce projet-là, en tout cas, quand je me suis décidé vraiment à me lancer et à aller au bout, même si là, j'espère peut-être pouvoir aller un peu plus loin. Je vais pas lâcher le morceau. Je pense que je vais aller. Il y a une très très grosse librairie à Bordeaux. Je vais aller avec 10 exemplaires sous le bras et puis je vais voir ce que je peux faire, quoi.
Librairie Mola, si vous nous écoutez,
C'est ça.
si vous
C'est
voyez
exactement
Craig
ça.
débarquer, apprenez le bouquin. Lisez-le, vous allez découvrir. Non, mais après, c'est vrai que comme ça, on dit en plaisantant, mais c'est arriver à se faire une place comme ça, c'est aussi un plaisir de dire, mais il y a d'autres gens qui vont lire, peut-être ça peut déclencher aussi un peu inspiré, il y a peut-être des gens qui vont se dire, attends, s'il l'a fait, pourquoi moi je pourrais pas le faire, etc. Enfin, il peut y avoir plein de choses qui peuvent arriver là-dedans. Et ça, c'est un élément qu'on se rend pas compte, en fait, avant d'écrire, parce que tu dis, toi, tu l'écris pour toi. Et puis, il y a un autre truc aussi. Je trouve qu'il y a un parallèle qui est intéressant. C'est que tu dis, bon, bah, je m'en moque un peu de ce que les gens vont dire. Mais c'est aussi un truc qu'on doit se dire quand on est coureur. Parce que combien il y a de gens qui disent, ouais, mais toi, tu cours trop. Toi, tu fais des trucs de fou. Toi, tu vas te fatiguer. Tu vas te casser. Tu vas être épuisé. Pourquoi tu cours? Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui t'ont déjà demandé pourquoi tu cours. Et qui comprennent pas.
Ouais, notamment un pote à moi qui s'appelle Mathieu et qui souvent me disait ouais, mais de toute façon, moi je comprends pas pourquoi tu cours, enfin, c'est pas possible pour moi. Et tu vois, lui, c'est pas un sportif pour un sou. Lui, il aime regarder les matchs de rugby, les matchs de foot, c'est son truc, tant mieux. Enfin, je veux dire, il aime le sport, il vit le sport à sa manière et pas de la même manière que. Et quand j'ai écrit le bouquin, j'ai pensé à lui parce que. Et c'est bientôt son anniversaire d'ailleurs. Et je me suis dit, je l'écris aussi pour, par exemple, expliquer à des gens comme lui pourquoi est-ce que j'en suis arrivé à là, quoi, et à faire ce genre d'épreuve, ce genre d'aventure. Et voilà, pour essayer de leur faire comprendre, voilà, et le cheminement. Et bon, j'ai déjà quelques retours, hein, beaucoup de retours quand même. J'ai, ouais, avoir 10 ou 15 retours. Et voilà, super positif et ça fait plaisir parce que du coup je me dis bon bah je suis pas à côté de je suis pas passé à côté de quelque chose, enfin voilà, je pense que ce que j'ai retranscrit je pense c'est intéressant vu les retours que j'ai, donc c'est cool, quoi. Je suis content, ça fait plaisir à l'ego, ça c'est certain, enfin parce qu'il y a de ça aussi quand même, mine de rien, quand tu te dévoiles, bah moi j'appréhende énormément le retour des gens quand même, enfin, même si je dis que je m'en foutais, mais globalement, oui, mais tu as quand même cette appréhension de dire est-ce que j'ai écrit, c'est intéressant quand même, quoi. Et c'est le cas, visiblement, donc c'est quand même cool. C'est quand même cool. Mais voilà, je l'ai fait et voilà, je suis très content de l'avoir fait. Et c'est voilà, s'il y a des gens qui ont envie de se lancer et qu'ils n'hésitent pas, vraiment, c'est chouette. C'est un super travail sur soi, ça nous permet de revivre des moments, des sensations, des choses. Enfin, voilà, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont envie d'écrire d'autres choses sur d'autres sports, mais c'est enfin, voilà, c'est une très belle expérience. Enfin, voilà.
Ben écoute, en fait, il y avait une raison aussi pour laquelle je t'ai invité, mais enfin, je voulais pas trop le dire trop fort, mais maintenant je me sens obligé de le dire. Ça fait partie de mes projets 2022, d'en écrire un sur mon aventure autour du podcast, en fait, de ce qui s'est passé du moment où je décide de me dire, je vais me lancer courir un marathon, je lance ce podcast et qu'est-ce qui se passe, tu vois, tu sais, mes parallèles, etc. Je l'ai un peu poussé, tu sais, je l'ai un petit peu repoussé de temps en temps, mais cette année-là, il me titille beaucoup, en fait, cette idée-là, ça me titille beaucoup. Et je vais le dire comme ça publiquement, comme ça maintenant je suis engagé, donc les gens ils vont me dire, tiens, hop, on a entendu que tu avais raconté ça, etc., tu vois. Et parce que je sais que j'ai besoin. Et l'autre jour, j'ai fait, tu sais, une timeline en fait de tous mes mon différent parcours de sport. Bon, j'étais plus du tout sportif et au moment où j'ai repris les différents trucs. Et en fait, je me rends compte comment l'histoire, elle s'écrit. Les points, tu sais, de... Tu te dis, bon, bah là, j'ose m'inscrire à ça. Là, je fais ça. Là, j'y vais, j'ai peur, mais j'y vais quand même, etc., tu vois. Parce que, par exemple, peut-être, le premier jour où tu t'inscris sur un ultra, tu te dis peut-être, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Est-ce que j'ai raison d'y aller ou pas? Tu as eu ce genre de pensée-là?
Sur mon premier ultra, je me suis dit, j'avais mon rêve, enfin, c'était vraiment un rêve de faire la Diagonale des Fous, c'est un rêve. C'est vraiment quelque chose qui est en moi depuis 2018. Et je me suis inscrit, mon premier ultra, c'était un 110 km avec 3000 mètres de dénivelé en Dordogne. Et je me suis dit, de toute manière, c'est maintenant que je vais savoir si vraiment, déjà, d'une, c'est quelque chose qui va me plaire et est-ce que je suis capable de me projeter sur le Grand Raid de la Réunion. Donc, j'y suis allé vraiment sans me poser de questions. J'avais jamais couru plus de 42 km sur une épreuve officielle. Et je me suis dit, lance-toi. T'as rien à perdre. Enfin, j'avais rien à perdre, j'avais rien à gagner. Juste, enfin, si, j'avais tout à gagner, au contraire, de me dire, ben voilà, c'était un cap psychologique, quoi. Et quand je l'ai terminé, j'étais super content. Enfin, c'était un gros défi quand même, quoi. Enfin, courir plus de 100 bornes, enfin, ouais, laisse tomber. C'était inimaginable 3 ans auparavant, quoi. Et puis ça m'a ouvert la porte à me dire, ben, le grand raid de la Réunion, et ben maintenant, il va falloir aller te le chercher, quoi. Donc, ouais, non, j'ai pas eu du tout cette appréhension de me dire, qu'est-ce que je vais faire là? Est-ce que j'ai ma place? Pas du tout. Je me sentais à ma place, même presque. C'est étonnant. Mais voilà, c'était le sentiment que j'avais à ce moment-là. Mais j'en parle dans mon livre, d'ailleurs. Il y a un chapitre sur mon premier ultra, forcément, parce que c'était une étape importante aussi. Comme je parle aussi de mon premier abandon. Enfin, voilà, il y a des choses qui sont des étapes comme tu parles, toi, pour ton livre, d'ailleurs. Parce que, tu vois, tu en parles et finalement, tu as déjà un peu la ligne directrice de ton...
Ah, mais j'ai la trame complète. Mais moi, j'ai l'avantage. C'est que j'ai documenté ça par le podcast. Et en fait, je me rends compte, j'ai raconté tous mes péripéties, ma préparation plantée sur mon premier marathon, mon changement de chaussures, ma visite chez l'ostéo en me disant, il va me dire que je peux courir dans 15 jours. Il m'a dit non, tu peux courir que dans 3 mois. Tu vois, des trucs comme ça que je peux tous les raconter parce qu'en fait, ce qu'il faudrait juste que je réécoute, c'est les premiers épisodes du podcast où j'ai des éléments, tu vois, où je vais m'en remémorer. Mais en fait, j'ai d'autres trucs, tu sais, qui remontent. C'est ça qui est drôle, en fait. Et où je me dis que du moment que je commence à écrire, déjà, il y a des choses qui remontent et des questions, des pensées que j'avais eues, etc. Et tu vois, ça me fait penser à une hypnose que j'ai eue lors du marathon de Paris. C'était la ligne verte du marathon de Paris, m'a hypnotisé pendant au moins 6 bornes, parce que j'étais dans le dur, et au bout d'un moment, je me suis dit, suis la ligne verte, t'arriveras au bout.
Eh ben ouais, t'as fait 10 bornes, et t'es arrivé au bout.
Voilà, comme quoi, tu vois, peut-être, je me suis opto-hypnotisé avec cette ligne verte, et ça nous permettra, tu vois, de conclure sur cet épisode. Il y a un truc qu'on n'a pas dit quand même, c'est, d'une part, on va conclure là-dessus, on sait tes objectifs, parce que tu nous as dit cette année, les courses, etc. Mais est-ce qu'après ça, tu te projettes sur 2-3 ans, sur ce qui passe à ce qu'il y aura après?
Ouais, j'ai une vague idée de ce que je veux faire, ouais. Ouais. J'en parle d'ailleurs aussi à la fin du bouquin, ouais. Il y a des choses que j'ai en tête. Voilà, j'aimerais bien courir un ultra au Canada. Parce que j'ai la double nationalité, et ma mère est née au Canada, enfin voilà, mes racines, une partie de mes racines sont là-bas, donc c'est vrai que j'ai de la famille là-bas, donc j'aimerais bien vivre un ultra là-bas, quelque chose que j'aimerais bien faire. Et puis il y a surtout le Tour des Géants qui me titille, quelque chose de démentiel, mais qui m'attire, mais vraiment c'est comme un aimant, quoi. C'est un peu comme Grand Raid de la Réunion. Il y avait l'UTMB à un moment, mais voilà, je crois que c'est pas vraiment mon truc. Mais le Tour des Géants, c'est un truc, voilà, c'est quelque chose que je veux faire. Donc je sais pas encore quand, ni comment, ni voilà, mais c'est quelque chose que je tenterai. Je sais pas si j'irai au bout, mais je le tenterai. Voilà un petit peu les projets pour les 3-4 prochaines années, quoi. Parce que c'est quand même un sacré morceau, le Tour des Géants. Donc
voilà. Faire un nouveau livre à ce moment-là.
Mais c'est rigolo, mais c'est vrai, je l'ai dit à ma femme, je dis, cette course-là, si je la fais, j'écrirai un bouquin dessus. Je crois que c'est vraiment une aventure incroyable. Mais voilà, je ne sais pas si les auditeurs, en gros, le Tour des Géants, c'est dans la vallée d'Aoste en Italie, et c'est 350 km avec près de 20 000 mètres de dénivelé, je
ouais,
crois, hein, un
beaucoup
truc comme
trop.
ça. C'est une aventure sur plusieurs jours et voilà, voilà. Après, c'est une course que j'aimerais faire, mais aussi avec des amis autour de moi pour m'assister, pour vivre l'aventure aussi de manière collective. Mais voilà, c'est un gros projet que j'aimerais monter. Et voilà, mais toujours pareil, j'ai promis à ma compagne que je ferai toujours maintenant les courses avec son aval et jamais tout seul dans mon coin comme ce que j'ai pu faire les années précédentes. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai en tête, mais voilà, qui se montera tranquillement.
Ouais, et ça fait penser qu'il y a quelqu'un qui a déjà écrit un livre sur le sujet, c'est Grégoire Chevignard, je sais pas si tu l'as lu,
Non.
qui a écrit il y a un livre qui s'appelle, qui est très connu, c'est de mon, comment il appelle ça, de mon canapé à la course la plus dure du monde. Et là, il parlait du marathon des sables, et il avait fait un livre sur le tort des gens, qu'il appelle le Trail Ultime. Et c'est pour ça que je dis, tu vois, il y a des, c'est vraiment une course qui se prête à des récits. Et pour, j'ai eu Perrine Fage cette année dans le podcast, enfin l'an dernier maintenant.
Ouais.
Et Perrine Fage, elle a fait le Tour des Géants. Elle a enchaîné UTMB en préparation du Tour des Géants et avec Steven Ullerich en sparring, enfin en partenaire pour l'accompagner pendant pratiquement tous les jours, sauf sur l'arrivée en fait, il pouvait pas l'accompagner. Et les stories où il montrait alors à la fois les paysages, mais aussi la difficulté, etc. C'est vrai que c'est une course, enfin, qui est vraiment, là, quand tu parlais d'aventure, c'est une sacrée aventure, quoi.
Ouais, mais j'ai un Maël que j'ai rencontré sur Instagram qui l'a fait à 24 ans quand même. Ouais, il avait partagé des stories aussi. Ça a été, je crois, aussi quelque chose de très très fort dans sa carrière de jeune coureur, Maël Jouan, et qui avait écrit un livre aussi d'ailleurs, tu vois, c'est rigolo, Philosophie et Trail. Et qui parle, voilà, il a fait pas mal de courses assez sympas d'ailleurs aussi, en étape aussi, comme ça, un peu comme le Marathon des Sables, là. Et ouais, mais c'est un peu lui qui m'a donné voilà, qui m'a un peu attiré vers le tort, là. Ouais, c'est quelque chose qui m'attire en tout cas, et qui est dans les clous, enfin, dans les, je sais pas comment on dit, mais dans les tiroirs, dans les. Je sais pas comment on dit, enfin voilà, c'est dans les projets, quoi.
Bah écoute, c'est tout ce que je te souhaite. Pour se quitter, on va dire, alors, où te suivre sur Internet? Parce que, comme ça, les gens qui voudront discuter avec toi, qui voudront échanger, qui voudront commander ton livre, parce qu'on peut le commander où en fait?
Ben, pour l'instant, nulle part. C'est juste de la précommande. En fait, j'ai pas de site internet. J'ai un Facebook, mais sur lequel je vais presque pas parce que voilà. J'y vais pas, enfin voilà. Je suis principalement sur Instagram, donc c'est Monsieur Tipiak. Et voilà, et puis bah, je pense que je mettrai une publication dans les prochains jours, là, enfin, d'ici fin janvier, pour faire une précommande. Donc voilà, les gens qui ont envie de se procurer le livre, bah, ils passent en message privé, et puis il n'y a aucun souci. Après, on échange sur les modalités, tout ça, quoi.
Ben
Voilà,
écoute,
mais ouais, c'est principalement Instagram.
ouais, ça marche. Moi, je mettrai les liens. Je le dis à Monsieur Tipiak, ça fait un peu pirate, mais il y a deux i et deux, enfin il y a deux fois deux i en fait, avec un k et tout. Donc je mettrai le lien pour que ce soit plus simple pour arriver à suivre. En tout cas, écoute, merci beaucoup pour le temps que tu as passé avec moi pour discuter de
Ah
tout ça.
mais
C'était un grand plaisir.
ah ouais mais pas c'est partagé franchement c'est là tu vois je sais même pas quelle heure il est, ouais, il est presque 11 h et j'ai pas vu le temps passer, c'était super vraiment, c'est je suis très content d'avoir partagé ce moment en ta compagnie et c'était chouette de voilà d'échanger sur une passion commune, c'est voilà c'est mais on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Vraiment, je pense que toi aussi je pense on pourrait encore en parler jusqu'à 3 ou 4 heures du matin, il y a tellement de choses à dire que c'était vraiment super, je suis très content. Merci en tout cas pour l'invitation
Bah écoute, c'était
pour
un
ton
grand
podcast.
plaisir. Tu sais, c'est pour ça que j'appelle ça les apéros, les épisodes dernier apéro. Non, dernier ravito. parce que justement, en fait, c'est quand tu refais le monde un petit peu après l'arrivée des courses, etc. C'est vraiment l'esprit de ça. On pourrait rester des fois des heures avec une petite binouze ou je sais pas quoi. une boisson de récup officielle. On va pas aller rentrer dans le, dans le sujet. Selon les invités, certains me diront que ça peut être le vin, d'autres que c'est la soupe et d'autres que c'est la bière. Chacun son truc. Mais en tout cas, écoute, c'était un vrai, vrai, vrai plaisir. Et puis moi, je vais suivre tes aventures avec, j'ai envie de voir la suite, en fait. Tu vois, moi, je suis pressé. J'aime bien voir la suite. Et donc, je mettrai tous les liens maintenant pour te suivre. Pour que les gens puissent venir te voir, échanger avec toi, s'ils ont envie de discuter avec toi, commander ton livre, bien entendu. Et je te souhaite une belle réussite, en tout cas, dans tes projets. Merci pour tous les conseils aussi, parce que tu vois, sans qu'il y paraisse, tous les conseils d'entraînement, sur l'organisation, etc. Il y en a plein qui se posent des questions de savoir comment y aller, parce que moi, je les vois, les questions qui passent, tu vois, comme ça. Et c'est intéressant aussi de voir comment toi, tu l'as géré. Et je pense avoir rassuré certains aussi, parce que on le rappelle, tu as 2 enfants, 3 ans et 5 ans. Hein. En même temps, tu nous fais de l'ultra alors qu'ils sont tout petits. Donc, ça montre, bon, bien sûr qu'il faut de l'organisation, mais que c'est possible.
Et de la remise en question aussi, ça c'est un autre truc. Mais ouais, et puis il faut surtout pas, faut se lancer, faut pas se poser de 10 milliards de questions et faut se lancer. J'ai juste une chaîne YouTube aussi, s'il y en a qui veulent voir un peu ce qui s'est passé pendant le grand raid de la Réunion en off. Voilà, j'ai fait une vidéo qui dure 1 heure à peu près, enfin voilà, et qui est retracée aussi dans le livre, mais voilà, il y a d'autres vidéos aussi sur d'autres trails et puis des tests un peu de matos, mais voilà, mais je vais plus beaucoup sur YouTube parce que c'est très chronophage aussi, donc voilà, c'était pour l'aparté. Mais merci beaucoup en tout cas Bertrand, et je te souhaite à toi aussi de, voilà, je resterai attentif à ton prochain bouquin du coup.
Bah, voilà, écoute, maintenant que je l'ai dit, je suis un petit peu au pied du mur. Mais bon, écoute, moi j'aime bien me foutre au pied du mur comme ça. Cette année, je vais te dire, j'ai dit 2022, c'est tous les mois une micro-aventure ou une, enfin un truc comme ça, et un espèce de projet créatif. Et puis quand j'arrive à mixer les deux, je vais mixer les deux. Donc là, 476 challenge, on va rentrer ça dans le côté aventure. Mes côtés, faire la vidéo à côté, ça, on va mettre ça dans le côté créatif. Et à partir du mois de février, je crois que je vais attaquer le bouquin. Ça sera un petit peu mon projet créatif. Et puis après, je partirai sur le vélo, Gravelman, etc. Avec le nouveau podcast qui va arriver. Bref, tu vois, on va bien remplir l'année. Moins de kilométrage que toi au total. Ça, c'est sûr, parce qu'au bout d'un moment, je vais pas tenir le rythme toute l'année comme ça. Je vais faire d'autres trucs. Mais en tout cas, je crois ce terme aventure que tu l'as prononcé aller entre 5 et 10 fois dans l'épisode, à la louche, c'est un terme qui revient tellement souvent dans cette période-là. On a besoin de repartir à l'aventure. Moi, j'en ai besoin. Tout à l'heure, j'étais sur mes chemins, je me disais, putain, je suis à 10 minutes de la maison, mais j'ai l'impression de partir à l'aventure parce que j'ai changé de chemin. Tu vois, ce truc-là, comme ça.
C'est dans une belle région aussi.
Et je lis les livres de Alistair Humphreys, qui est le pape de la micro-aventure, et qui est vraiment... tu vois, qui parle du truc de partir comme ça, un peu le Mike Horn aussi, tu vois, dire faut partir, commencer, tu sais pas où tu vas arriver, mais il faut commencer le truc. Et je crois qu'on a tous besoin de ça, en fait. Et c'est un truc aussi, un message que t'as partagé, et que je crois qu'on est tous attirés par ça, parce que à force d'être enfermé, de pas pouvoir faire ce qu'on veut, on a aussi besoin de pouvoir le faire. Et si c'est par l'ultra, écoute, pourquoi pas.
Il y a plein d'autres choses. Enfin, vraiment, faut les projets, il faut pas que ça reste dans une petite boîte, quoi. Enfin, on a tous 10 milliards de projets, mais il y a des fois, faut en sortir un et faut y aller, quoi. Mais ouais, les aventures, c'est clair que ça, 2022, voilà, ça, je pense qu'on va commencer à retrouver un semblant de liberté et pouvoir revivre, voilà, tout ce qu'on a laissé avant mars 2020, quoi. Voilà.
Eh ben écoute, c'est quoi, on croise les doigts. Et en tout cas, je mets tous les liens, tu vois, j'ai retrouvé ta chaîne YouTube avec les vidéos, etc. Donc je mettrai tous les liens aussi pour ceux qui veulent suivre ça, et puis ceux qui préparent aussi la réunion, tu vois. Ils vont être intéressés de voir un petit peu à quoi ça ressemble, un petit
ouais,
peu.
Ouais, pas de souci.
Paysage.
Pour changer, ouais.
Et écoute, merci beaucoup. C'est l'heure d'aller se coucher, hein, parce que je sais pas si demain toi t'as prévu de courir, mais moi oui. Moi je fais pas de corde à sauter par contre, hein, ça je laisse ça. J'ai un entraîneur qui devait faire de la corde à sauter systématiquement et tout. Cette année, j'ai délaissé ça, mais c'est vrai que c'est un très bon exercice, faut le dire.
Ah ouais, c'est hyper complet.
C'est
comme le rameur d'ailleurs, tiens.
Ah oui, comme le rameur. Allez, tiens, c'était le dernier conseil pour la route. En tout cas, merci beaucoup. Et puis nous, bah écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous dis pas avec qui, parce qu'en fait, je n'en sais rien. Je sais pas, j'ai pas fait l'heure des épisodes, etc. Je les enregistre un petit peu en volume comme ça. Mais en tout cas, on parlera d'aventure, on parlera de différents types de courses, etc. Parce que j'ai des invités qui font des trucs, les courses du dernier debout, l'homme le dernier debout, tu sais, tous ces trucs-là comme ça. Là, j'en ai plein aussi que je vais inviter là-dedans. Et puis avec aussi ceux qui se lancent dans leur première course à l'inverse et voir un petit peu le parcours comme ça pour élargir aussi la vision des uns des autres. Et donc c'était intéressant d'avoir aussi ta vision là-dedans pour justement montrer ce qui est possible et jusqu'où on peut aller. Alors merci beaucoup et belle continuation.
Merci beaucoup Bertrand, ciao.
Bon, c'est encore moi. J'ai un dernier petit mot à vous dire avant de vous laisser écouter un autre épisode de podcast. Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à vous abonner, bien entendu, au podcast. Vous pouvez le faire sur Spotify, Apple Podcasts et tous les lecteurs de podcasts. Mais aussi, si vous le voulez, à laisser une petite note 5 étoiles sur Apple Podcasts. Vous savez que ça aidera le podcast à se faire découvrir et à permettre à plein de gens de découvrir aussi les vertus du mouvement. Allez, ce coup-là, je vous laisse et je vous souhaite à tous une très belle journée.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.